élevé, la plateforme de l'heure. Le 4
avec votre boy Tony.
Shout out Larry derrière la cam.
Élevé. Élevé, la plateforme de l'heure, vous savez déjà. Le 4 avec le Mind. Jeez. Aujourd'hui.
Merci pour l'invitation, guys. Vraiment content d'être ici. On va vous parler de toutes sortes de trucs. Ça va être super nice.
Yes, sir, man. Je suis content de te recevoir, man. On te voit travailler fort depuis bien des années, comme on en parlait hors caméra. Tu put in work, des vidéoclips, des featuring, des shows, de la production, ingénieur de son aussi, je me trompe pas.
Exact.
Artiste. Puis j'ai vu aussi à quelque part, je pense que tu réalises même des vidéoclips, là, si je me trompe
ouais,
pas.
Ouais, ben il y a Telquel Disparaître qui vient de sortir vendredi, justement, que c'est une réalisation de moi avec mon équipe, Photo Bouvier sur la caméra, ma femme qui est dans le clip aussi, qui est l'actrice principale, avec un autre des artistes de mon studio, Goldares, qui fait l'acteur aussi. Fait qu'on fait souvent... un peu comme vous, là, une bonne équipe.
C'est la famille.
Une bonne équipe donne des meilleurs résultats.
Let's go, man. C'est nice de voir ça puis de te recevoir aujourd'hui. Puis je pense aussi que tu as ton propre studio de musique, si je ne me trompe pas.
Ouais,
est-ce que tu
pas super loin d'ici. On joue, j'ai un studio de musique aussi. Tout le temps studio. Quand c'est pas pour faire du montage, c'est pour faire du beat. Quand c'est pas pour faire du beat, c'est pour faire du mix. Sinon, c'est pour écrire une track. Mais tout le temps studio.
C'est le laboratoire.
Exactement.
Let's go à Anjou. Puis, je regardais ça, là, discographie. Tu fais de la musique, tu as des vidéos qui remontent à 10 ans et plus, 11 ans, 12 ans, si je me trompe pas. La musique, toi, ça commence à quel âge, là? Qu'est-ce qui se passe pour que tu arrives là?
J'ai commencé à vraiment m'intéresser à la musique quand j'étais vraiment, vraiment jeune, mais j'écoutais genre du emo-core, puis des genres de trucs scream, puis je voulais pas nécessairement être un artiste. Je faisais juste genre écouter ça, mais genre religieusement. Puis après ça, je suis tombé sur les Word Up Battle, puis tout ça. Puis tu sais, je voyais qu'il y avait une façon de s'exprimer. Puis j'aimais beaucoup les Word Up Battle, ça me divertissait, tu sais, à l'époque. Puis, mais c'est surtout de voir, mettons, comme l'artiste, après, j'allais chercher, OK, mettons, Corias, genre, qu'est-ce qu'il fait comme musique? Puis là, j'écoutais, puis j'étais comme, OK, il y a un moyen de, genre, s'exprimer en français de cette façon-là. J'avais à peu près comme 13-14 ans quand j'ai commencé. J'ai sorti mon premier EP, j'avais genre 15 ans à peu près. Fait que moi, à 14 ans, j'ai commencé à cogner à des portes, puis j'étais comme, je vais être un rappeur.
T'as pas niaisé avec ça, là.
Fait que c'est ça, je te dirais que l'amour de la musique, ça a commencé quand même vraiment jeune à ce niveau-là. Puis que depuis ce temps-là, toujours juste à 28 ans, fait que je peux carrément dire j'y ai dédié la moitié de ma vie en ce moment.
C'est ça que ça prend, la dédication, l'acharnement, la motivation, puis de juste pas lâcher. Comme on le disait, là, des fois, souvent, personne t'ouvre la porte, faut que tu cognes, puis des fois, t'as pas le choix, faut que tu mettes le pied dedans pour pouvoir rentrer dans place. Mais c'est avec acharnement que ça se fait, ça. Il y en a souvent qui ils se démotivent, personne leur donne une chance, ah, c'est peut-être pas pour moi, puis ils laissent aller, mais... Quand tu crois vraiment en toi puis tu sais que tu es à ta place, c'est à toi de le prouver aux autres parce que
exact.
Personne ne te doit rien en vie.
Exact. Puis tu sais, à la fin de la journée, on a une vie à vivre. Fait que tu sais, je trouverais ça aberrant de me lever le matin pour faire quelque chose qui n'est pas ce que genre mon instinct, mon cœur me dit de faire, tu sais, de ma journée. Pour moi, être riche, tu sais, il y a plusieurs définitions, tu sais, selon les visions, les cultures puis les mentalités.
Mm-hmm.
Mais pour moi, être riche, c'est vraiment d'avoir le luxe de pouvoir me réveiller le matin puis de choisir ma journée, tu sais. Pour moi, ça, c'est la plus grande richesse, d'avoir un bel entourage qui m'encourage là-dedans. Puis tu parlais de défoncer la porte des fois, puis des fois, tu défonces la porte puis ça fait des années que tu bûches pour ouvrir cette porte-là. Tu ouvres la porte, puis c'est ce qui est à l'intérieur, c'est pas ce que tu pensais qu'il allait être. Puis là, t'es comme « Oh, OK! » Ça, c'est l'étage du bas, mais il reste une couple de portes là avant d'être où ce que tu veux.
Tu pensais que t'étais déjà en haut, mais non, dans le fond, t'ouvres celle du palier du bas. Là,
exact.
Tu continues de monter.
J'aime pas le en haut, en bas en tant que comme plus hiérarchie, c'était plus comme en voulant dire il y a encore des trucs à monter.
Il y a des niveaux. Hein.
Mais parce que tu sais, je pense que le haut puis le bas, c'est tellement relatif selon les objectifs. Puis tu sais, quand j'étais super jeune, mon but dans vie, c'était d'avoir un album ou Archambault, tu sais. Puis quand j'ai eu un album ou Archambault, j'étais content. Mais je me suis dit, tu sais, ça règle pas tout. T'sais, tu peux pas acheter la joie avec un peu de succès éphémère ou whatever. Il faut vraiment que tu le fasses pour toi et que tu aimes le processus. Parce que sinon, si tu arrives à une place que tu considères le haut, mais que tu l'as juste fait pour te rendre là, c'est pas...
C'est quoi le next move? Comme là,
ça,
tu vas peut-être plafonner
comme...
là.
c'est ça.
Ça prend toujours un next move puis un next move pour pas juste pour prouver pas pour prouver mais pour te prouver à toi puis aller plus loin puis trouver ta motivation, je pense. Ouais. Tu sais, souvent comme tu dis, quand tu fixes ton but là, ils disent aim for the stars, shoot for the moon, mais tu sais, il faut toujours que tu vises plus haut pour aller plus haut.
Ouais.
Puis c'est vrai de la manière que tu le dis. Puis sinon, tu me parles du studio à Anjou, tu me parles de musique 13-14 ans. Toi, à la base, t'es un gars de où? Montréal ou environ?
Ouais, ben, j'ai grandi à Anjou pas mal toute ma vie. Je suis né sur la rive sud, mais je suis parti... Ma mère a déménagé. Dans le fond, on a eu une inondation où on habitait. Il y avait comme de la moisissure et tout. Fait qu'on a fait une couple de motels un peu random avant d'être comme relocalisé. Puis on était tout le temps relocalisé dans des spots un peu weird. Ma mère avait pas d'auto, fait qu'on faisait avec ce qu'on avait. Puis finalement, elle était comme, OK, on va aller à Montréal, comme ça, même si j'ai pas d'auto, on va être comme proche de tout. Fait qu'on a découvert Anjou, j'ai super aimé ça. Puis je me suis bâti une belle communauté là-bas aussi. C'est une place Anjou qui c'est quand même fou parce que c'est Montréal, mais c'est tellement familial. Je suis dans un duplex, on se situe dans un duplex. Puis si je fais pas de musique, mes propriétaires me le reprochent. Sont comme nous, hein, si on fait mettons, le ménage, on a besoin genre de musique et tout.
C'est fun,
puis j'ai la chance aussi que mes propriétaires, c'est des parents adoptifs à moi, dans le fond. Quand ma mère était super malade, j'allais vivre là. Fait que pour eux, la musique puis tout, ça fait juste partie de leur quotidien. Je travaille avec mes voisins sur de la vidéo, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment tellement familial que j'ai vraiment beaucoup aimé. Sinon, j'ai habité 2 ans sur la rive sud aussi, à Saint-Hubert, Longueuil. J'ai habité avec Adamo. Avec qui j'ai fait beaucoup de musique aussi.
Okay, okay.
Quand j'avais 18 ans, ben oui, gros shout-out à Adamo. Puis c'est ça, j'avais à peu près 18 ans, fait que moi j'étais un petit con. Lui, il avait 27, fait qu'il était plus mature. Fait que nos mentalités clashaient. Puis ben, c'est beau de voir qu'on est encore super soudés puis encore des bons chums, même si j'étais un petit con. Désolé Adamo pour les années difficiles que je t'ai faites.
Ah, puis des fois, ça prend ça aussi, quelqu'un qui est dans le milieu, qui nous ouvre les yeux, qui nous éclaircit sur avoir une carrière artistique. Peu importe c'est quoi, producteur, ingénieur de son, artiste, réalisateur visuel, il y en a plein, on en parle dans le podcast, on pense des fois qu'il y a juste l'artiste, mais il y a 25 personnes en arrière, derrière le vidéoclip ou la chanson ou le show, des gérants, des managers, des gérants de tournée, des designers, il y a tellement de monde qu'on l'oublie, puis c'est un peu ça avec la plateforme qu'on aime élever, mettre en valeur les gens, puis des fois les gens qu'on sait même pas exactement qu'est-ce qu'ils font ou qui étaient derrière tel ou tel projet, tel produit. Fait que c'est le fun d'en parler. Puis tu me parlais tantôt des battles, des word up, tu l'écoutais, mais je pense que tu y as participé aussi,
Oui, j'en ai fait aussi, je pense à 15-16 ans, j'ai fait mon premier, c'était genre MC Clash Sélection, puis c'était quand même spécial, j'avais réussi à passer la sélection, fait qu'après ça, j'avais fait le MC Clash 4, puis là, ça a comme déboulé, puis j'avais eu des victoires, fait que j'étais super content, nice. Puis ça me remontait, là, puis j'étais comme, je trouvais ça super fin. D'avoir comme toute cette énergie-là, que même si c'est genre du diss, je trouvais que la culture était, tu sais, about love. Puis un peu une des raisons pourquoi j'ai arrêté d'en faire avec le temps, c'est vraiment juste parce que, tu sais, avec la musique, je pouvais vraiment dire ce que je voulais. Puis j'aimais beaucoup, tu sais, comme le fait que, tu sais, tu t'en vas dans un event de battle, tout le monde est fin avec tout le monde, genre, tout le monde est chill, genre, avec tout le monde, c'est comme vraiment familial. Mais pendant 2 mois, faut que tu écrives de la haine sur quelqu'un. Genre. Mm-hmm. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, je vivais des trucs et tout. J'étais un peu genre dark kid, mouton noir, seul contre la terre, genre et tout. Fait que ça me faisait du bien de me défouler. Puis avec le temps, tu sais, je trouvais que ça me faisait plus du bien de donner, mettons, des messages et tout avec des chansons que de diss quelqu'un que je connais même pas juste pour comme une vitrine ou whatever. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est about beef dans vie. Je suis quelqu'un tellement genre peace and love. J'aime pas la confrontation et tout. Fait comme ça me rejoignait juste moins d'avoir à m'imaginer une fausse animosité contre quelqu'un. Faire genre, OK, là, pas toi pendant 2 mois, je te déteste. J'insulte ça. Je check tes stats, puis genre tes vidéos YouTube, puis j'essaie juste de trouver genre l'erreur dedans. Puis je trouvais que ça allait un petit peu contre ma nature. Puis que je trouve que c'est quand même still un beau sport parce que c'est une belle liberté d'expression, puis ça permet vraiment aux gens de se défouler à la bonne façon. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un petit peu tannant, genre, et tout, puis ça m'a vraiment aidé à me canaliser puis à me défouler de la bonne façon. Mais avec du recul, je trouvais que ça me défoulait encore plus de juste dire ce que j'avais sur le cœur. Puis le micro puis le studio, ils pouvaient m'écouter d'une façon que genre, je voulais pas parler, mettons, à mes parents, ben à ma mère, parce que, genre, je voulais pas l'inquiéter. Au prof, tu veux pas les inquiéter. Tes amis comprennent pas nécessairement, genre, et tout. Tandis que, genre, un micro, il va jamais te juger. Cubase va jamais, genre, donner son avis. Il va juste être à l'écoute, tu sais. Fait que je trouvais que c'était un bon médium pour juste me défouler. Puis après ça, ta track, tu veux la sortir, tu veux la sortir, tu veux pas la sortir, tu veux pas la sortir. Mais le méchant, il est sorti, tu sais. Puis, fait que je me suis canalisé plus vers la musique à cause que ça rejoignait plus... comment j'étais moi, genre.
Puis c'est avec le Word Up un peu que ça t'a amené, j'imagine, en studio ou à avoir un peu l'étendue de la musique qui n'était pas juste le battle. T'as vu comme d'autres formes de probablement par les artistes qui étaient là, j'imagine, dans le Word Up. Y a-tu quelqu'un qui t'a amené en studio?
Exact, mais dans le fond, je regardais beaucoup les Word Up. J'étais très fan, tu sais. Fait que genre, j'hésitais pas à écrire aux gens que comme je les trouvais dope, puis que. Genre, j'aimais ça, ce qu'il faisait, puis demander des conseils. Très, très jeune dans ma vie, il y a G7, justement, Adamo, Jamikaz, d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé à... ils m'ont amené chez Dusty. Dusty m'a permis de rec, il m'a genre jamais jugé, puis c'était juste comme, yo, tu t'en vas là, dis ce que t'as à dire et tout. Moi, un moment donné, j'avais vu une entrevue à Musique Plus, puis c'était farfadé. Puis moi, je savais que je voulais faire de la musique de ma vie, mais à chaque fois que j'en parlais à n'importe qui dans mon entourage ou prof ou whatever, on me disait, ben c'est pas un métier, genre, tu peux pas faire ça de ta vie. Puis au point où j'avais des très très bonnes notes à l'école, mais j'étais pas nécessairement studieux. Mais je catchais vite, puis j'avais une très bonne moyenne générale. Puis les profs, ils disaient, c'est du waste. T'sais, genre, puis des fois, ils voyaient que j'étais en train d'écrire, mettons, comme un texte de rap, puis ils chiffonnaient, ils déchiraient, puis tout. Puis là, moi, je sortais de la classe, j'étais comme, yo, c'est quoi ça? Mais. T'sais, pour eux, c'était du way. C'était comme, tu pourrais être, je sais pas, avocat, si, ça. Puis genre, tu décides de faire de la musique, puis c'est pas payant. Puis j'avais vu Farfadet dire à Musique Plus dans une entrevue, moi, on m'a toujours dit ça. Puis c'était toutes les mêmes choses que j'entendais. Puis il a dit, puis tu sais, aujourd'hui, je suis all-in là-dedans, je fais ça de ma vie, puis nanana. Fait que j'ai écrit un message, puis il dit, hey, j'aimerais ça t'acheter des beats, puis te rencontrer en personne. J'étais trop jeune pour avoir un compte de banque, fait que je travaillais en dessous de la table au PFK. Puis j'avais économisé un petit peu. Puis j'avais dit, OK, tel jour, je finis l'école, je viens en autobus, je risque d'arriver vers telle heure, je vais pouvoir payer tes beats, puis je vais repartir direct après. Mais tu sais, au moins, je voulais la poignée de main, genre et tout. Puis quand je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, parce que c'était en joue Saint-Hyacinthe en autobus quand même, quand je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, lui, il fermait les portes du studio, puis je disais, hey, attends, tu sais, je suis là. Je me dis, est-ce qu'on se connaît? Puis je dis, ouais, on s'est parlé, tu sais, pour les beats. Il me dit, hey, honnêtement, je pensais pas que t'allais venir. Tu sais, le nombre de personnes qui me disent, ah, tu sais, je venais, je vais t'acheter des beats, nanana. Fait qu'il a rouvert son studio, on s'est assis, genre, et tout. Puis depuis ce temps-là, il m'a beaucoup mentoré, il m'a appris à faire les beats. Tu sais, je disais, c'est-tu correct si tu me montres un peu comment ça marche, comment c'est. Puis il m'a pris sur son épaule dès jeune. Fait que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Je me trouve très chanceux d'avoir été épaulé aussi par plusieurs personnes comme ça qui ont cru en moi, comme même jeune. J'avais comme 14 ans, puis il me wreckait, puis j'arrivais, puis il a tout le temps été comme professionnel. Il me donnait des conseils. Un moment donné, il m'a appelé, puis des années plus tard, puis il m'a dit, hey, genre, je sais que t'es un gars fiable, j'ai besoin d'un DJ. Ma première expérience de DJ, c'était au Franco. Club Soda, salle pleine, puis j'étais full stressé, ça s'est quand même bien passé, j'avais fait une petite erreur, mais et rien de grave. Après ça, je suis devenu son DJ. Fait comme, j'ai été vraiment chanceux d'avoir, tu sais, je voyais du monde que j'idolâtrais, puis ces gens-là, ils ont cru en moi, puis ça m'a permis aussi de plus croire en moi, parce que j'étais comme, wow, OK, c'est cool, genre. Tu sais, on dit « never met your idol », mais je peux pas parler de ça tout le temps dans mon cas, parce que j'ai eu vraiment des idoles qui ont été des bons modèles, puis qui m'ont aidé à grandir à travers ça.
Let's go, man, c'est très important. Gros respect à Farfadet pour ça.
Gros respect à Farfadet, Adamo, G7, Dusty, Jamikaz.
Let's go, man. Ça prend ça. Puis comme je le disais tantôt, puis tu t'es un peu complété là-dessus, les artistes, souvent, ils l'ont pas facile. Tout le monde te dit, ah ben non, il n'y a pas d'argent là-dedans, fais pas ça, reste à l'école, trouve-toi une job. Le monde, ils comprennent pas, mais un artiste qui l'a dans l'âme va plus se faire mal d'aller chercher une job puis pas travailler sur son art que mettre l'effort là-dessus. Oui, ça va être dur, ça sera pas facile, mais au final, c'est toi que tu nourris. Si t'es vraiment un artiste dans l'âme, si tu te nourris pas d'or, tu te dépéris à vue d'œil, parce qu'on dirait que tu te brûles de l'intérieur.
Exact.
T'as besoin de ce médium-là, d'aller chercher que ce soit quelconque, la peinture, la production, chanter, culinaire, un chef, peu importe quoi, il y a tellement de formes d'art, mais quelqu'un qui n'est pas artiste ne va jamais comprendre. Puis malheureusement, souvent, ben, ça va être même nos parents, à l'école, les professeurs, des amis qui vont dire « fais autre chose, il n'y a pas d'argent », ils ne vont pas comprendre ta vision, ouais. Mais il faut vraiment que tu crois en toi, puis toi, tu as été chanceux, tu as cru en toi, tu y as été, puis tu as eu quelqu'un qui a réussi à t'épauler, puis à peut-être te montrer un petit peu les premiers niveaux là, de ça. C'est vraiment, c'est un beau parcours, man. Je trouve ça le fun parce que ça arrive pas nécessairement à tout le monde. Moi, je dois dire que jeune, il y avait pas toujours, je suis pas un artiste, mais je suis autour du milieu artistique. Puis jeune, moi, je suis rentré là-dedans peut-être vers 25 ans parce qu'avant ça, je voyais personne vraiment dans cet univers-là. C'était autre chose. Il n'y avait pas de DJ, il n'y avait pas de producteur. La scène était plus jeune. Là, aujourd'hui, on le voit de plus en plus au Québec, à Montréal. Puis même en région, on voit des rappeurs, des producteurs, des vidéographes de plus en plus. Là, ça s'extensionne en région. On les voit venir. C'est beau à voir.
Vraiment.
La scène grossit. Il y a plus de shows. Il y a plus de places qui offrent des shows. Il y a plus de gérants artistes, fait qu'on le voit, là, ça se complète.
Ouais, vraiment. Mais les shows, par exemple, depuis la COVID, j'ai senti quand même un certain drop. J'ai l'impression qu'il y a comme une culture du monopole aussi depuis la COVID. T'sais, en 2019, j'ai fait 60 shows dans mon année. Puis depuis la COVID, c'est beau quand j'en fais 15 dans une année. T'sais. Oh,
ouais.
Parce que j'ai l'impression que c'est souvent, t'sais, mettons, comme ça va y aller avec les chiffres. Fait que c'est souvent les mêmes qui vont avoir les. Mm-hmm. Tu vas avoir les shows comme Métro, les gros festivals, genre, pis tout. Fait que veux pas, ça va vraiment y aller avec les chiffres, les ci, les ça. Puis avant, tu pouvais plus facilement te booker, mais depuis la COVID, le prix des salles a monté, le prix des billets monte. Par conséquent, genre et tout.
Le coût de la vie en général.
Fait que je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit, mais pour les shows, par exemple, j'ai l'impression que oui, il y en a de plus en plus, mais que c'est quand même de plus en plus tough organiser un show. Tu sais, avant, je pouvais organiser un show, j'avais 15 ans, puis je pouvais organiser un show facilement, tandis que maintenant, tu sais, il faut plus penser à ces affaires-là. Il y a aussi, je pense, que quand tu vieillis, tu veux plus juste, tu sais, genre, faire play puis rapper ton truc.
C'est moi, mettons, sélectif.
J'aime ça faire un show puis, tu sais, d'avoir, mettons, comme, genre, des gens déguisés qui font quelque chose, des décors, un éclairage spécifique, tu sais, comme vraiment raconter une histoire avec ton show. Tu regardes, mettons, la scène EDM, tu sais, il va avoir, genre, des dinosaures qui se battent en laser, genre, pendant que le DJ fait son truc. Puis tandis qu'ici, souvent, ben, tu sais, ça va être genre un gars, man, qui va rapper, qui a un micro. Puis s'il y a du luxe, là, il va avoir genre des petits canons là, de pfff sur le devant de la scène. Puis ça, c'est genre fou, là, tu sais. Fait comme on dirait que aussi ma vision de vouloir essayer d'amener quelque chose de plus gros à ce niveau-là, puis de faire que le show, c'est vraiment une expérience, ça rend que je trouve que c'est plus difficile de booker des shows maintenant parce que. C'est tout des critères qui font que comme « Oh, OK, ouais, c'est, c'est beaucoup de trucs. »
C'est vrai. Mais c'est là que tu vois aussi que tu es un artiste qui se démarque parce que c'est pas tout le monde qui pense à ça, mais l'art visuel, puis de monter un show, puis d'avoir un décor ou une vision ou une ligne directrice de ton show, ben c'est de l'art visuel, tu sais, puis ça fait partie de ton branding aussi.
Exact.
C'est une manière aujourd'hui, je pense qu'en 2025, il faut que les artistes et n'importe qui est dans le milieu se démarque puis trouve leur branding puis qu'ils le mettent de l'avant parce que c'est comme ça que tu vas chercher ta couleur en tant qu'artiste puis d'inviter le monde dans ton univers aussi puis les amener à te comprendre. C'est oui, on a la plateforme comme aujourd'hui, podcast, pour un peu plus comprendre les artistes, les gens du milieu, avoir des conversations avec eux autres. C'est intéressant pour le public de développer, d'aller plus loin là-dedans. Mais même en show, comme tu dis, d'avoir ton propre décor, de penser à ça, avoir une ligne directrice, d'amener les gens dans cet univers-là, ça peut les amener à mieux comprendre l'album ou le projet, le EP, peu importe quoi, à s'immerser là-dedans. Là, t'sais,
exact, c'est une immersion. Une expérience. C'est exact. Plus juste un spectacle, c'est une expérience. Puis il y a tellement d'éléments qui vont faire en sorte que tu vas te rappeler. Puis tu sais, je me dis, si des grosses entreprises comme McDo choisissent du parfum à plancher qui te donne faim, tout le marketing est tellement pensé. Puis tu sais, à la fin de la journée, tu sais, le Maine, oui, c'est moi, mais c'est surtout un brand. Puis tu sais, c'est un brand qui est fait par moi qui écris des textes, mais j'ai toute une équipe derrière moi aussi qui va m'aider, qui va me pusher, puis qui va m'aider à prendre des décisions. Tu sais, si je ferais tout moi-même, ben. T'sais, Nike serait pas Nike si ça serait juste un dude tout seul qui est juste comme moi je suis capable de tout faire bien, tu sais. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Patrice Laflamme qui est venu au podcast. Mm-hmm. Puis tu vois, lui, il m'apprend beaucoup de trucs. Des fois, je pose des questions, puis je suis comme, je devrais-tu faire ça ou ça? Puis il prend le temps, tu sais, de m'écouter, de me guider et tout. Puis, tu sais, je me dis, le Mind, oui, c'est un branding. Le Mind Music plus le studio, mon producing, c'est un branding. Puis, tu sais, c'est moi l'image de ce branding-là parce que c'est moi. Mais à la base, c'est plein de monde. C'est tout ce qui est visuel. Tu sais, oui, je trouve ça important d'avoir les décors, les ci, les ça. Mais si c'était pas de ma femme puis de mes amis qui m'aident à monter un show, à faire comme « Ah, ça, tu devrais faire ça de même. Ça, tu devrais faire ça de même. » J'ai un de mes amis qui s'occupe de ma tête, mes cheveux, s'ils sont pas comme lui, il veut, genre, je peux pas faire le show. Puis ma blonde, si je suis habillé d'une façon, là, où ce que genre j'ai une couleur qui fit pas, tu fais pas le show de même. Tu t'habilles de même, genre. Puis, okay, gros shout-out à Gold RS, gros shout-out à Mariana Lord.
Mariana Lord, qui est ta femme, puis qui est designer, si je ne me trompe pas. Yes, let's design. Go, j'aime ça, man. L'équipe, le branding, comment que t'en parles, je le vois que c'était très important pour toi, puis ce l'est très important. Il faut que les gens comprennent, les artistes qui mettent ça de l'avant. Ils sortent des chansons, des fois, j'ai l'impression qu'il faut penser un petit peu plus aux produits. Oui, créer, c'est là que c'est dur un petit peu entre l'art puis le show business, on va dire. Mais le branding est tellement important aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est juste ce qu'on vend, qu'on pousse. Mais il faut trouver une ligne directrice, sinon tu peux vite te perdre dans tout ça puis faire paquet de choses qui n'ont pas vraiment de point qui se rassemble pour donner au public la vision que toi, tu as dans ta tête. T'sais. C'est bien beau l'avoir, la mettre en parole, un vidéoclip, là, tu le dis, un show. C'est tout ça qui amène le monde vraiment à comprendre qui est lui, c'est ça. Là. Puis quand ils recherchent cette sauce-là, ils savent qu'ils vont chercher le Mind pour ça parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vont avoir un peu ou... C'est sûr que de projet en projet, ça doit changer, l'inspiration, tout ça. Il y a plein de choses qui viennent s'annexer à ça. Mais ouais, très important.
Ouais, puis encore une fois, d'où l'important d'avoir une équipe. Parce que, tu sais, avant, quand j'essayais plus d'être autodidacte, tu sais, je faisais mes beats, je faisais mes mix, je faisais mes écritures, je faisais ma promotion, je faisais mes reels, je faisais mes vidéos. Puis, tu sais, j'avais des gens qui m'aidaient, mais j'essayais tout le temps d'avoir à 100% le contrôle de tout. Puis, ce qui était difficile là-dedans, c'est que des fois, là, tu te dis, OK, là, je vais faire un track. Mais là, tu penses marketing. Mm-hmm. Fait que là, t'écris, mais t'es pas dans ton soul, genre. Tandis que d'avoir une équipe, je sais que moi, je peux juste faire des maquettes. Puis je vais faire des maquettes là, plusieurs fois par semaine, un verse, un refrain, tu sais, tac, OK, c'est cool. Moi, ça m'a fait du bien. Puis après, c'est avec toute l'équipe qu'on va écouter les maquettes, puis on va faire ça, on va la finir, ça avec tel clip. Ça, c'est telle affaire, ça, peut-être à retravailler. Mais au final, ça fait que j'essaie pas de créer dans un contenant. Je fais juste créer. Puis après ça, on prend tout ça. Puis on fait comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont tellement essayer de penser à genre, OK, comment je peux faire mon track pour qu'il marche sur TikTok, genre et tout. Puis it works. Puis pour certains, c'est parfait comme ça. Moi, pour ma part, je me suis vraiment perdu un peu là-dedans. Puis ça me démotivait. Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui sont peut-être un peu plus introvertis aussi que parler à une caméra. Puis genre d'être comme full, genre. Tu sais, genre, exact. Puis... C'est peut-être pas aussi naturel, mais c'est ça qu'il faut faire en même temps de nos jours. Fait que, tu sais, genre. D'avoir cette équipe-là, ça m'a vraiment aidé à trouver le juste milieu, puis à pas m'oublier là-dedans, puis à faire gentil de toi. T'aimes ça être seul dans le studio, faire des tunes, genre et tout, avec ton entourage, tes groupes, puis de penser à comme quel TikTok tu tatata, ça me stresse. Fait que maintenant, je fais des tracks, puis après ça, je vais montrer mes tracks à certaines personnes que je connais dans mon entourage qui vont être vraiment plus aptes à dire, genre ça, tu pourrais faire un TikTok de ça avec ça, puis mon DJ Pocket, lui, il est souvent sur TikTok, puis il est tout le temps en train de poster des trucs. Fait que lui, il me dit, ah, yo, il y a un duet qui vient de sortir, fais un duet. Fait que là, tu sais, c'est. Moi, naturellement, je vais pas penser à ça. Je vais juste faire de la musique.
Ouais, parce que même sinon, puis comme tu le dis, il y a tellement de branches à, oui, écrire une chanson, l'enregistrer, puis la mettre out there, mais il y a tellement de branches après ça, vidéoclips, les réseaux sociaux, les shows, ton habillement, tout le branding, que c'est tellement de choses à penser que si tu penses à tout ça en faisant la chanson, tu prends un peu de l'art, puis tu vas peut-être négliger le produit, la chanson, peu importe quoi. Tandis que, comme tu le dis, ça fait l'entonnoir avec une équipe. Toi, tu peux te concentrer sur ton truc, donner le 100% de ton art, ta plume. Puis après ça, vous faites l'entonnoir ensemble. Puis là, bon, ça, c'est un TikTok, ça, c'est un vidéo. OK, on monte un show, blablabla, blablabla. Il y a tellement de facettes. Tu peux t'essouffler un peu là-dedans à cette heure. On peut tout faire par nous-mêmes aujourd'hui. C'est ça qui est magique dans l'ère qu'on est. Mais je pense que sans équipe, quand tu essaies de tout faire, tu te perds un peu là, dans le labyrinthe. Ouais. C'est tellement vaste, c'est fou. Là, quand tu commences vraiment à prendre ça sérieux puis que tu veux toucher un petit peu à tout là, puis faire ça intelligemment, ça prend une équipe. Hein. On en parle, on en reparle sur la plateforme. Chaque chose que vous voyez, il y a 10, 15, 20 personnes en arrière du truc. C'est important de trouver les bonnes personnes puis de monter une équipe hein, parce que l'énergie, la chimie, ça s'achète pas, ça s'invente pas. Fait que quand tu trouves les bonnes personnes dans ton équipe qui vibrent avec toi sur une même résonance, là, c'est là que tu peux sortir le meilleur.
Vraiment,
là.
Vraiment.
C'est important, man. Puis, tu sais, on fait le tour de tout ça. Tu me parles des Word Up, le studio, Farfadet un peu qui t'amène. Après ça, t'es DJ. Le Mind, ça commence où? Pourquoi là, ce nom-là? Y a-tu une référence à quelque part? D'où c'est venu?
Ouais, ben le Mind, en fait, moi, quand je suis depuis que je suis jeune, t'sais, j'ai tout le temps été, mettons, le plus petit au secondaire. Je suis bâti sur un frame de chat. Puis, tu sais, j'ai appris à marcher extrêmement tard dans ma vie. Je suis né avec une malformation cardiaque. Fait que ça fait que j'ai passé comme quasiment les deux premières années de ma vie sur comme un lit d'hôpital. Ma mère, elle me parlait, elle me stimulait constamment, genre le conscient, genre, puis l'intellect. Mais physiquement, j'ai tout le temps eu un retard. Donc, on m'avait proposé de skipper une année, parce que je savais déjà comme lire, écrire à la maternelle, première année. On m'avait proposé de skipper une année, puis ma mère ne voulait pas, parce qu'elle était comme, tu sais, le retard physique va compenser. Je préfère que tu ailles, genre, en même rythme que tout le monde, genre, et tout. Fait que j'ai tout le temps été plus mental que physique, naturellement, que manuel. Ça m'a suivi longtemps dans ma vie. Quand j'étais jeune, en quatrième année du primaire, ben en fait, toutes les fois que j'étais en joue, je faisais les compétitions d'échecs. Puis il y a juste une année sur les six que j'ai pas été le doute de l'école qui allait représenter son année à Montréal. Okay. Fait que comme, tu sais, j'étais vraiment... j'étais le gars qui était plus dans sa tête, qui était tout le temps genre, tu sais, le mind, là, tu sais.
C'est bon, c'est
pis,
bon.
Puis, non, elle écoutait tout le temps des trucs de tueurs en série, là, H24, genre, pis tout. Puis il y avait un truc qui me marquait, c'était Criminal Mind, genre. Puis je trouvais juste que le mot mind sonnait bien, puis là, c'était comme penser, les pensées, nanana. Fait que je trouvais que c'était nice, mais à la base, je m'appelais Mind Rider. Avec une faute dedans. En plus, c'était horrible. T'sais, quand tu choisis ton nom en anglais et que tu as 14 ans, c'est vraiment drôle. Fait que je m'appelais Mind Rider, puis avec le temps, j'ai fait genre « Oh ». Puis quand je suis venu pour faire mon premier comme battle, j'ai fait genre « Ouais, attends, là, on dirait que ça devient comme sérieux. C'est récréatif, mais ça devient comme un peu plus professionnel. J'ai peut-être envie genre de mettre un nom qui va peut-être pouvoir me suivre plus longtemps. » Fait que j'ai juste fait le Mind. Je trouvais que c'était... genre ça me décrivait bien. Ma mère était très bilingue, fait que ça faisait que j'avais un nom comme très bilingue aussi. Ça faisait que j'écoutais beaucoup de musique en anglais. J'ai toujours été intéressé naturellement plus à la scène anglophone, juste phonétiquement. Mais en même temps, moi, je suis un amoureux de la langue française. Fait que ça faisait vraiment comme le bon pont. Puis ça restait que, genre, à la base, n'importe qui me connaît va faire genre, ouais, tu sais, je peux l'inviter à mon déménagement, il y a du cœur au ventre, puis tu sais, il va le faire, là. Mais je suis peut-être plus un gars de mental.
Puis c'est bon que t'en parles. Tu parlais français, anglais. Je sais que tantôt, tu me parlais un petit peu de tes influences au départ, en tout cas, qui étaient un petit peu plus rock, des trucs de même. Sinon, dans le rap, c'est quoi les premières affaires que tu commences à entendre? C'est-tu du rap de Montréal, des États-Unis, de la France? Ça a l'air de quoi?
Je dirais que les premiers trucs de rap que j'écoutais vraiment jeune, c'était genre Eminem, 50, Lil Wayne, genre, puis... The Job the World, je dois l'avoir écouté. Genre, tu sais, avant sur iTunes, ça disait le nombre de fois que tu l'avais écouté. Mm-hmm. Je devais l'avoir écouté comme 5000 fois, là, cette track-là. Tu sais, comme, j'écoutais vraiment comme cette scène-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis sinon, j'écoutais beaucoup de Emocore, fait que Bring Me the Horizon, puis des trucs qui étaient comme plus. Tu sais, j'étais très mouton noir, j'avais besoin de me défouler, fait que d'entendre, genre, tu sais, comme du gros bûchage, ça me faisait du bien. Puis après ça, j'étais dans ma classe, puis c'était comme tout calme. Fait que ça donnait comme un peu mon. Ma dose d'énergie avant d'aller être calme, ben, je suis hyper actif, quelque chose de pas possible. Comme n'importe quand je vais être au studio, j'ai la jambe qui fait comme ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, de la misère à pas parler, puis parler, puis parler. Okay. Hier, j'étais en train de perdre la voix à mon show, puis là, je disais à ma copine, hey, il va falloir que j'arrête de parler, parce que je vais perdre la voix, puis comme, c'est impossible. Tu peux pas arrêter de parler. Fait que, j'ai tout le temps été comme super hyper actif aussi, comme là-dessus. Fait que ça a tout amené.
OK. Puis là, après ça, comme tu me dis, tu commences à être DJ pour farfader en show. C'est quoi, t'as à peu près quel âge là, rendu là à ce
C'est
niveau-là?
Vraiment à partir de, je pense, genre 13-14 ans que j'ai commencé à vraiment, vraiment accrocher sur la musique ici. Ouais. Je la connaissais pas full avant. Fait que même si on me montrait des trucs, tu sais, j'accrochais pas. Puis c'était dans la tête, j'étais comme, ah, j'ai déjà ma musique, c'est correct. Puis j'aimais beaucoup les lyricistes. Donc c'est pour ça aussi que je suis tombé direct avec Farfadet, avec G7, avec son album Le Jour J, ça m'avait vraiment marqué. Jamikaze qui est venu un petit peu plus par après, mais que ses textes m'avaient vraiment, vraiment percuté, puis que je trouvais ça vraiment cool. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de gens à l'époque que je trouvais qu'il y avait une plume. Il y a un album de Saint-Sou de 2004, qu'il y avait des textes dedans que je trouvais que c'était vraiment beau. Puis c'est là aussi que j'ai commencé à écouter Nekfeu beaucoup, L'Entourage, Orelsan, puis j'étais comme waouh, il y a tellement de façons de véhiculer des messages, tu sais, puis que ce soit genre intéressant, puis que tu véhicules quelque chose, tu fais pas juste rapper pour rapper, genre c'est pas juste le fun à l'oreille, c'est le fun à l'oreille, mais c'est le fun à la lecture aussi, à l'œil. Fait que c'est là que ça a comme vraiment, vraiment débouché mon amour du rap ici.
Pour la plume, là.
Pour la plume, moi c'est vraiment la plume qui m'a accroché, puis de. T'sais, j'écoutais de la musique parce que je trouvais que ça défoulait. Puis quand j'ai compris que je pouvais dire ce que j'avais à dire sur un format, puis qu'il y avait des gars qui me le montraient bien, puis qui réussissaient dans leur format, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup inspiré directement.
Nice. Puis à partir de quand tu viens avec ton propre studio? C'est quelque chose de tôt dans ta carrière? Comment que ça l'arrive?
Je pourrais pas dire l'âge exact. Ça fait peut-être depuis 2018-2019, peut-être même avant ça. Avant, j'enregistrais chez Dusty, chez Farfadet, puis chez HB. Puis j'étais tellement bien, puis j'aimais vraiment, vraiment ça. Un moment donné, HB est venu chez moi, il m'a aidé à me faire un petit setup de maquette, parce que lui, dans le fond, il avait un autre travail, puis c'était un petit peu plus difficile d'être disponible. Moi, j'avais pas d'auto. Fait que Saint-Hyacinthe, Montréal, c'était un petit peu plus difficile aussi. Puis la Rive-Sud, même chose. Fait que ça me permettait de pouvoir créer un peu plus facilement tout le temps chez moi. Puis à la longue, ben, tu sais, je voulais perfectionner mon truc. Puis je m'étais promis, moi, quand j'étais jeune, j'allais jamais avoir un studio. J'ai comme, je vais faire du rap et des beats, puis that's it. Puis finalement, ben, genre, j'ai tellement aimé ça. Je m'enregistre ma tune, puis là, je gosse un peu dedans. Je suis comme, OK, je pourrais travailler ça. Ah, tel plugin va m'aider à ci, ça. Puis finalement, je suis juste tellement tombé en amour avec comme comment prendre un mix. Puis, ma philosophie quand je mixe une track, c'est l'émotion. T'sais, c'est vraiment l'émotion. J'ai tout le temps stick là-dessus. Fait que j'ai pas nécessairement mix selon des normes. Je vais pas prendre une template, puis on rec là-dedans, puis c'est ça. Je vais essayer de voir c'est quoi qui est important dans la tune pour dicter les émotions. Puis je vois chacun des instruments comme un personnage différent à ton histoire. Fait que peut-être que la bass, elle veut dire telle affaire, puis c'est tel personnage de ton livre. Puis ta voix, c'est telle affaire, puis ce que tu dis, c'est tel personnage de ton livre. Fait que j'essaie de voir comme comment tout blend cet univers-là pour que ça fasse le roman le plus concis. Puis ça, des fois, je vais volontairement mettre une bass trop forte parce que je veux qu'on aille vraiment le côté genre sale, puis genre dans ta face. Puis après ça, faire un gros contraste où il va avoir genre une petite flûte. La personne va pouvoir chanter, puis après ça, ça répète à grosse bass pour montrer, tu sais, comme, j'aime beaucoup les contrastes, mais surtout l'émotion. J'aime ça quand t'écoutes un truc, puis peu importe ta langue, peu importe d'où tu viens, tu peux comprendre ce que j'ai dit. Parce que, on s'arrête souvent à dire, tu sais, le rap au Québec, tu sais, on n'a pas beaucoup et tout, puis c'est vrai, mais j'écoute du rap, mettons, de japonais, d'Allemagne et tout, puis, tu sais, genre,
la
même
musique,
si
c'est
je
un langage universel.
Ce qu'ils disent, je sais qu'il est dope. Mm-hmm. Fait que c'est un petit peu de même que je vais essayer de mixer de comme qu'est-ce que je véhicule, c'est quoi l'émotion qui est le prédominant, puis essayer de faire tout dans le mix, dans la construction du beat pour que vraiment l'émotion que j'entends dans la chanson soit. Fait que j'ai pas nécessairement mixé avec des conventions, puis c'est souvent ça qui va faire que je vais aimer moi-même mes mix. Après ça, un mix, je trouve, c'est quelque chose, c'est comme de l'art, c'est comme un beat, c'est comme une toile, c'est subjectif. Tu peux aimer un mix, tu peux ne pas l'aimer. Mais on est qui pour dire qu'il est bon ou pas? Après, tu sais, s'il pique, tu sais, il y a des trucs, des erreurs. Mais un mix qui est bien fait en bonne et due forme, après, c'est juste une question de goût. Fait que pour moi, pour vraiment comme maximaliser genre ça, ben, ça va être vraiment d'aller miser sur l'émotion. Puis là, je vais vraiment me sentir bien. J'ai écouté la track de l'artiste, je vais faire « ouais ».
Ouais, puis j'imagine en plus, oui, tu le fais pour les autres, mais tu le fais pour toi.
Pour moi aussi.
D'écrire de t'enregistrer, de faire ton beat, de faire ton mixing, ton mastering, tu dois vraiment pouvoir contrôler ta vision artistique. Tu sais, il n'y a personne de mieux placé pour toi que de savoir où tu veux t'en aller avec ça. Comme tu disais, le mix, mastering, le mix, c'est subjectif. Ben toi, tu le sais, c'est quoi la direction. Tandis que quand tu travailles avec quelqu'un, des fois, de véhiculer le message pour que lui comprenne c'est quoi ta direction, ça peut être un peu plus complexe que quand vraiment tu le fais par toi-même. Un peu plus de travail, mais comme on le sait dans la musique, surtout quand tu commences dans les débuts, si tu es capable de faire le plus de trucs possible à la maison, ben ça te coûte moins cher, t'économises quand même.
Ouais, 100%.
Puis en bout de compte, ben je pense que tu finis par le faire aussi par nécessité à la base en premier, mais après ça, c'est vraiment de contrôler ta ligne directrice puis ta vision artistique. Chapeau à toi pour ça encore une fois. Puis c'est ça, fait que là, tu parlais de DJ pour Farfadet en show. Vous en faites-vous plusieurs comme ça ensemble? Tu me parlais du Club Soda.
C'était le premier. Francofolie aussi. C'était le même show, mais sinon, on en a refait plusieurs. Je l'ai suivi à travers plusieurs shows. Même en 2019, on avait une formule où je faisais la première partie. Après, je flippais, je devenais son DJ. Puis après ça, lui, il flippait puis devenait le DJ de Soulja. Fait qu'on suivait souvent les trois ensemble. Puis ça a été super cool. Puis sinon, même encore à ce jour, comme hier, j'étais à Granby avec Farfadet puis tel quel. Puis tu sais, les gars, ils ont tellement un bon aura, un bon vibe. C'est jamais compliqué avec eux. C'est tout le temps sain. Que ça l'aime bien ou moins bien, tu peux être transparent. Puis il n'y a pas de jugement. Puis c'est juste, on s'en parle. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup les suivre, tu sais, dans ces shows-là. Je suis DJ pour Gros Big aussi. J'ai fait plusieurs shows avec eux. Festival Cisco à Rouyn-Noranda. On a fait Club Soda, mais Franco aussi. Fait qu'on a fait plus Métro. Les deux, en tout cas. Des fois, il y a tellement d'affaires. Je ne rappelle plus c'est quoi qui est quoi. Mais on a fait beaucoup, beaucoup de shows aussi. Puis c'est le même principe. T'sais, c'est juste about l'énergie. Puis, honnêtement, c'est pas ce qui m'allume le plus à être DJ en soi. J'ai eu des gigs où j'étais juste, mettons, DJ à Toronto, puis je performais pas, j'étais juste DJ. Puis j'aime ça, mais de toutes les sphères, c'est sûr que je préfère être un rapper, mais ce que j'aime aussi, c'est que je fais DJ avec, justement, hier à Granby, j'ai performé mon set, puis même sur leur set, même si je suis DJ, j'ai fait un inédit avec tel quel qu'on va sortir bientôt. Nice. On performait ensemble, les gars, ils me laissent rapper aussi, fait que tu sais, ça me permet de genre quand même vivre mon petit genre émotion de rapper, genre faire genre ah trop nice, puis tu sais j'aime ça pareil. Fait que c'est
ben ouais, puis ça rajoute des cordes à ton arc. Exactement. Puis ça te donne la chance, comme tu dis, je crois, de d'étendre un petit peu plus ton art, puis d'offrir des formules où ce que tu peux faire des featuring, performer, être DJ. Fait que ça comble le truc. Puis je pense qu'en étant artiste, pour moi, un artiste en 2025, c'est un entrepreneur. Puis en étant entrepreneur, il faut que tu comprennes la manière de maximiser le plus possible ton bagage, qu'est-ce que t'as. Comme tu me l'expliques, la formule, ça fait juste du sens. T'es capable de faire le plus de trucs possible. Puis ça te met de l'affichage quand même. T'es DJ, après ça, whoop, t'embarques sur la scène. Même si c'est juste une chanson que tu performes, ben c'est une chanson de plus devant un public que t'aurais pas performé nécessairement, qui te voit, qui apprennent à te connaître, qui vont après ça, le soir même ou le lendemain, taper le mind, OK, ah, telle vidéo, boum. Puis ils ont appris à te connaître comme ça, tu sais. Ouais. Il faut que tu te démarques des autres, il faut que tu te mettes d'en face des gens. Pourquoi que les gens iraient t'écouter plus qu'un autre s'ils te connaissent pas, tu sais? Il faut leur amener ça, tu sais. Puis ça, c'est une autre manière de le faire. Let's go, man, c'est une bonne formule.
J'ai la chance de travailler avec des gens aussi qui sont très reconnaissants, puis que, tu sais... Hier, je sais pas combien de fois, Farf et tel quel, ils ont dit « Yo, faites du bruit pour le man qui a bien ouvert ça. Yo, faites du bruit pour le man qui s'est platiné. Yo, faites du bruit pour le man qui vient de dead son acapella. » Tu sais, c'est comme... Je suis pas juste DJ pour être DJ, tu sais, il m'inclut vraiment. Puis après ça, ben ça me permet, moi, de pouvoir montrer mon craft. Puis après ça, ben je le vois, même statistiquement parlant, que ça aide.
C'est sûr.
La courbe.
C'est sûr. Beaucoup plus que, comme tu le disais, mettons une gig, comme tu dis, à Toronto, où ce que là, t'es juste DJ. Ça, c'est peut-être une autre partie, un autre médium. Ouais. Mais dans les, vraiment un show de rap, si t'es DJ exact. Pour un autre artiste, que là, tu peux te mettre de l'avant. Je pense que ça rajoute un petit peu plus à ta valeur de cette manière-là. Je le file, mais au moins, tu dis que tu l'as essayé quand même. Là. Tu t'es déplacé. Il y aurait d'autres monde qui auraient dit « Ah non, moi, je fais pas ça, je suis pas DJ. » Tu l'as essayé quand même.
Ouais, ben, je l'avais déjà fait un peu avant. J'avais déjà fait beaucoup de DJ fin de soirée où, mettons, des fois, j'étais DJ pour un artiste, mais après ça, il y avait besoin d'un DJ jusqu'à 1h du matin. Fait que je l'avais déjà faite et tout. Puis, tu sais, j'aime ça, mais c'est pas ce qui va m'allumer le plus. Moi, j'aime construire le beat, faire play, c'est le fun. Puis après ça, tu peux jouer, tu sais, avec. Mais j'aime plus comme composer des trucs originaux que de comme blender de match-up ou de juste refaire. Mettons, je fais jouer mes beats, puis là, je les accélère, je mets l'effet, là, ah, je drop sur l'autre beat. Je trouve que c'est un autre art complètement incroyable. Puis c'est aussi, je sais que je suis pas le meilleur dans le DJing. Le DJing, c'est tellement complexe. Mm-hmm. Quand tu es DJ pour un artiste, tu n'as pas besoin de autant flex sur ta platine. Mais tu sais, si je vois des DJ comme Avicii, puis des. T'sais, je regarde ça, puis je suis comme, tu sais, j'ai encore beaucoup de croûte à manger avant d'être un DJ. DJ. Fait que j'ai comme un peu le syndrome de l'imposteur quand je le fais, pas pour un artiste, mais comme en tant que, OK, je suis dans un festival, je le fais, j'ai tellement de plaisir, mais j'ai tout le temps ce petit moton-là de genre, c'est le fun que je sois là, mais genre, tu sais,
est-ce que... C'est peut-être pas toi à 100%.
J'ai tellement de discipline comme... que je sais que je dead, genre, est-ce que je suis le meilleur pour être ça? Je sais pas. Mais en même temps, à chaque fois, j'ai des bons comebacks. Fait que c'est peut-être moi aussi qui est difficile avec moi-même.
T'es à ta place, man. Tu trouves ta place. t'étends ton art. Puis il faut aller trouver des manières en tant qu'artiste d'être rémunéré. Hein. On le sait, c'est pas toujours facile. Avec le studio, ça doit en faire une partie. En étant artiste, une autre partie. Ingénieur de son, une autre partie. DJ, une autre partie. T'sais. Fait que là, quand ils disent de pas mettre tous les œufs dans le même panier, ben, je pense que c'est un bon exemple, ça. Puis c'est de même que tu avances dans la vie. Après ça, quand que les choses marchent, ben là, tu peux tranquillement narrow it down puis vraiment devenir ce que tu veux vraiment montrer au public. Mais... il faut partir de quelque part, puis il faut bâtir ton empire. Puis je pense que tu es sur la bonne voie de le faire, man. Shout-out à toi pour ça. Puis comme on en a parlé, je pense plus de 10 ans dans le game, des featuring avec Farfadet, Rhymes, Saint-Sou, si je me trompe pas.
J'ai pas...
Non, excuse-moi, tantôt t'en parlais, mais pas de featuring.
Non, j'aimais son album en 2004.
OK, exact.
C'est une des plumes qui m'a vraiment comme oh OK dès le début mais j'ai pas eu de featuring avec lui mais avec ton Doug Saint-Louis.
Exactement.
Avec plusieurs personnes que
ouais, puis j'ai vu même aussi dernièrement je pense un artiste de la francophone mais de la France July si je me trompe pas.
Oui, July. July anciennement nommé July Wild West ici. C'est un artiste qui est français, qui est venu habiter longtemps au Canada aussi, puis qui est reparti vivre en France. Puis pendant qu'il était au Canada, on avait un collectif, back then, qui s'appelait les Rats d'égout. c'est sketch comme nom.
Ah, let's go.
J'ai pas choisi ça. Mais... Puis c'était comme, on était très à propos de la technique rappée avec plein de rimes, les multisyllabes, puis ta-ta-ta-ta, puis c'est qui tire son pattern de 12 rimes le plus longtemps possible, genre et tout. Puis on avait fait plusieurs comme Radio Cypher, Ghetto Érudit, des trucs comme ça. Puis c'est là que ça avait super connecté. Puis à chaque fois qu'il revient au Canada, tu sais, je l'invite au studio, puis il m'a dit, OK, mais tu sais, un moment donné, il va falloir que tu viennes en France venir à mon studio, puis checker comment c'est. Ça a donné Orbit, disponible partout d'ailleurs. On a fait une chanson là-bas. Et il nous a accueillis chez lui à Avignon. Il est dans comme le centre d'Avignon, tu sais, où il y a les remparts. Son studio est là aussi. Fait comme culturellement, c'est incroyable. Ça, ça m'a vraiment dépaysé. Il nous a accueillis les bras ouverts, moi et ma copine. On était chez lui pendant un temps. Studio, puis ça a été super, super cool. Puis on a fait Orbit, justement.
Yes. Fait que la collaboration s'est faite là-bas directement en France. Là,
J'ai fait le beat en 15 minutes à peu près. Ben, tu sais, je l'ai retravaillé après. Mais dans un TGV, j'étais comme, hey, tu sais, il faudrait que je prépare des beats et tout. On était dans le train. J'avais mon laptop sur mes cuisses. J'avais mon écouteur, puis je faisais mon beat sur mon laptop. J'étais comme, OK, tu sais. Puis je pensais pas que ça allait être le beat qu'il allait choisir. Puis là, quand on est en studio, je monte plein de beats. Puis tu sais, des fois, la mauvaise manie d'un producer, c'est qu'il va trop remplir son beat. Il va pas entendre la voix nécessairement tout de suite. Fait que là, il va faire un beat qui est comme super complet. Puis les artistes vont l'écouter, ils vont faire comme mieux. Le beat est bon, mais c'est tellement imposant. Puis c'est tellement comme, OK, il faut que tu fasses ça. Ton bridge va être là. Ton refrain, il est 8 bars. Ou peut-être 12. C'est tellement genre...
C'est quasiment trop cadré.
...condicté que des fois, c'est plus difficile. Tandis que ça, vu que je l'avais fait comme juste en 15 minutes, que c'était genre une guitare que j'avais fait un midi dessiné sur FL Studio avec un 808, un petit pattern de drum rapide, ça s'écrivait facilement, fait que j'ai pu le compléter par après. Puis c'est ça, fait que j'ai fait le beat là, super rapide, mais j'ai tout le temps été un peu reconnu pour être un genre de producer compact. Je fais souvent des sessions où j'amène mon ordi, je peux pogner un coin de table ou dans l'avion, je fais des beats. T'sais, j'ai pas besoin de gros space, je me suis arrangé pour avoir comme tous les plugins dans mon ordi. Puis tu sais, je suis fan des gens qui font du analogue et tout, mais je suis content de pas faire ça parce que ça me permet d'être en France, à Los Angeles, à New York, puis tout le temps avoir le même setup. Mon son va tout le temps sonner bien parce que tous mes plugins sont là, pareil. Peu importe je suis où, même si je suis dans un motel, même si je suis assis dans un Airbnb à quatre dedans parce qu'on est trop broke à LA, genre, on va tout le temps être capable de quand même remettre un truc. Je dépends pas, mettons, de mon gros compresseur puis de mon preamp puis tout. Nice. C'est sûr que ça donne un cachet complètement différent. Mais je trouve que la liberté de pouvoir produire un peu partout, je trouve que c'est une richesse. Puis tu sais, Travis Scott, il a fait un album dans un autobus. Là, puis je trouve que c'est tellement magique que le era du digital nous permette de... Si t'as une idée là, peu importe t'es où, tu peux la print. Donc, t'es pas obligé de booker une place où ce que là, le studio, la console est disponible. OK, là, t'arrives, t'es plus dans l'émotion. Mm. Je trouve ça cool que même si je suis en voyage, puis à un moment donné, OK, j'ai les blues, ben, je peux juste rentrer dans mon Airbnb vite fait, tac, tac, je print mon idée. Je repars, j'ai une meilleure journée juste parce que j'ai vidé le trop-plein, puis je trouve que c'est juste parfait.
Tu peux lock-in dans le moment. Là,
yeah, exact.
C'est live. Puis c'est un peu ça, je pense, la représentation de la musique d'aujourd'hui. Hein. Je pense qu'en 2025, on est beaucoup dans le moment. Puis la musique, comme on l'a dit plus tôt, c'est une émotion. Fait que des fois, c'est dur de faire un beat, puis là, des mois après enregistrer, puis d'arriver sur le même émotion,
le même vibe.
Ouais. Le même vibe, tandis que quand c'est fait dans le moment même, t'as l'énergie des gens, t'as le feedback, boum, on le fait, puis l'autre, il embarque. Comme tu dis, il y a plus de place sur le beat, tu l'as moins chargé. Ça donne des fois, souvent, quelque chose de mémorable, comme « Wow, j'arrive même pas à croire qu'on a fait ça, là, tu sais. » Très intéressant. Puis là-bas, pendant que tu étais en France, t'es-tu resté bien longtemps? T'as-tu eu le temps de faire un peu de networking, peut-être des shows, quelque chose?
Ouais, on a fait un petit spectacle. C'était super cool, justement, avec July. Puis sinon, ben, j'ai fait quand même beaucoup de networking. Puis j'ai aussi fait beaucoup de vidéos. Il y a Figure de style qu'on a fini là-bas. Pas longtemps avant, j'avais été aussi au Portugal avec The Visual Timekeeper, qui est derrière comme plusieurs de mes vidéoclips aussi. Ouais. Il a fait le vidéoclip de Turbulence au Portugal. Puis lui, il y avait un condo là-bas. Fait qu'il était comme, hey, viens-t'en au Portugal. On a fait ça. Coup de tête, là, en moins d'un mois, on s'est décidé, puis on est allé. Fait que là, on a pu tourner une couple de clips. Puis moi, avec ma copine, qui est très à l'aise avec la caméra aussi, on a pu tourner comme beaucoup de scènes. Puis là, il manquait beaucoup de scènes. Fait qu'on a pu finir les clips en France. Puis je me suis beaucoup ressourcé musicalement aussi. Fait que il y a eu beaucoup de networking, mais moins que je pensais. Puis aussi, je trouvais qu'il y avait plus de codes. C'était plus... Mettons, quand je suis allé... j'ai vécu 2 mois à LA. Je suis allé vivre 2 mois avec mon boy Since 99, avec qui je fais tout le temps de la musique. Puis c'est un artiste... Pour moi, c'est la plus belle voix que j'ai entendue au Québec, point. Puis même en dehors du... Il y a une voix, il y a un grain, puis... À chaque fois, on travaille ensemble. Puis, tu sais, quand je parlais de mon brand, ben, il fait autant partie de mon brand que l'inverse. Tu sais, au début, moi, j'avais beaucoup de misère avec ma voix. Puis, lui, il chante très bien. Puis, tu sais, des fois, il va me donner des idées de flow. Tu vas me dire, OK, tu sais, là, tu essaies de laisser plus respirer. Tu devrais faire tel truc ou telle note au lieu d'aller, genre, là. Puis, on s'aide beaucoup. Puis, j'ai toujours cru beaucoup en sa musique. Mais le problème avec la musique anglophone et R&B au Québec, c'est qu'il n'y a pas vraiment de scène. Ils disent qu'ils ont une scène parce qu'ils ont ouvert un truc à la disque, mais en vrai, il n'y a pas de scène, il n'y a pas vraiment de subvention pour ça. Déjà, tu es anglophone, il faut que tu te battes avec tous les autres anglophones. Puis c'est vraiment comme... C'est important de préserver le français, je comprends pourquoi, mais je trouve ça décevant aussi que ça, c'est autant difficile puis autant pas encouragé de la musique anglophone au Québec quand on est surround par des anglophones. Mm-hmm. Puis ça pourrait sûrement aider notre scène québécoise de juste pas trop... focuser juste sur le français. C'est ironique parce que je sais à quel point c'est important de garder cette scène-là intacte, le français, puis c'est une langue qui se perd, puis c'est important de la protéger. Mais en même temps, on peut pas se battre contre tout ce qui est autour de nous. T'sais, on a de l'eau, puis sinon des anglophones. Fait que de dire, OK, ben on va vraiment pas encourager la musique anglophone, ben je trouve que c'est un peu de se mettre des bâtons dans les roues, mm-hmm. puis d'empêcher du monde de voyager à Montréal pour checker des shows. Ils vont aller venir voir des artistes anglophones des États-Unis ou de Toronto à Montréal. Mais c'est rare qu'on va voir une grosse tête d'affiche anglophone du Québec, puis qu'il y a du monde de partout qui vont venir au Canada puis aux États-Unis payer pour venir voir le show. Mais c'est une scène qui n'est pas encouragée, puis je pense que honnêtement ça pourrait vraiment aider l'économie de l'industrie ici. Mais tout ça pour dire, on s'est dit, OK, check, on va essayer à LA. Les deux, ça allait trop pas bien, genre. Puis on était comme, yo, qu'est-ce qu'on fait? On est un peu perdu, check, on va aller à LA. On n'a pas vraiment de sous, mais c'est pas grave. On va mettre all in. On était Since 99, Oliver Twist, qui est derrière la majorité des guitares qui est sur mes projets. Fait que ça, puis on est parti avec aussi mon boy GC. Ça, c'est mon frère. Okay. C'est mon frère adoptif. Okay. Puis lui, c'est le Team Spirit, genre. Quand tous les artistes sont en genre grosse dépression et sont comme « Ah, oh shit, il n'y a plus rien qui marche », t'as GC qui va faire genre « Mais bro, chill, t'es à LA, G. » Tu sais, genre, on a besoin du GC, genre.
Ouais, c'est important,
fait que, ça. Fait que là, si on est allé vivre là-bas, puis tu vois, contrairement à, mettons, la France, où il y a plus de codes, c'est un petit peu plus, je trouve, difficile de faire son pas. Puis les gens sont vraiment réceptifs, ils veulent travailler et tout, mais je trouve que, mettons, à LA, j'ai loué un studio. Première semaine, je suis arrivé à North Hollywood. Je loue un studio. Finalement, je m'embarque parce que je suis allé fumer. Puis il m'a dit, je le texte. Là, lui est en session, le propriétaire du studio. 30 minutes après, il vient me débarrer. Il dit, hey, je suis tellement désolé, j'ai pas vu le message. Mais il dit, pourquoi t'es sorti? Il dit, tu viens pas d'LA, toi? Parce qu'à LA, tu fumes en dedans, tu sais, genre. Là, je sais que, ah, OK. Fait que là, tu viens d'où? Là, on commence à jaser. Je monte une track. Ben, il m'a réinvité. Puis gros shout-out Andrew Beckner, Culture Jam Record. J'étais accueilli à bras ouverts. Gars, on avait des petites bières, on avait de l'eau, on avait de la bouffe. On était traités aux petits oignons. Puis je viens d'arriver à LA, là, je m'attendais à rien. Je loue un studio à Hollywood. Je me dis, ah, OK, je vais faire mes affaires, genre et tout. Il m'invite à refaire une autre session. On a produit une tune pour Since 99, justement, Too Much, qui est sur les réseaux, qui est produit avec lui, qui fait de la guitare. Puis il m'a juste réinvité gratuitement en mode genre, j'aime ton énergie, c'est fou. Nice. Let's make a song. Puis on a fait une track. Puis après ça, j'ai loué un autre studio avec des bons boys aussi. Puis en même principe, ça a été comme tellement...
Organique.
Tu sais, j'ai fait une track qui va sortir bientôt avec un de mes amis d'LA qui s'appelle Remy Rock. Et on était à son studio, puis ça a juste été encore naturel, Culture Record. Ils l'ont juste, genre, viens, on va faire studio. Ils ont demandé à ma copine qu'est-ce qu'elle voulait boire. Ils ont demandé à mon frère qu'est-ce qu'il voulait boire, qu'est-ce qu'il voulait manger. Il y a un gars au studio qui est juste s'assuré qu'on ait tout ce qu'on avait besoin. Puis, tu sais, au final, tout est à propos, genre, de juste faire de la bonne musique. On se faisait accueillir les bras ouverts. J'ai eu des gens pour le clip de Distant que j'ai fait à LA. J'ai performé, mais vu que j'avais pas de visa, je pouvais pas être payé. Sinon, c'était en dessous de la table ou whatever. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est juste fait un échange de services. Je vais venir performer à ton event. Puis eux, c'était des danseurs incroyables. Shout out D-Soul, ça vaut la peine aussi. Puis on s'est fait des échanges de services. J'allais performer. Ils venaient travailler dans mon clip. Fait que j'ai eu deux danseurs professionnels dans mon vidéoclip. J'ai pu performer. Tu sais, c'est vraiment un échange. Tu sais, c'est comme, j'ai jamais vu une place dans le monde où c'était autant naturel de juste faire de l'art. Que c'était ouais, pas, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Puis malheureusement, au Québec, c'est que le bout de pain est tellement petit que le monde a peur de share. Tu sais, le Nashville Split, qui est pour moi juste basic, là, genre juste, c'est supposé être ça. Tu sais, si on n'est pas les quatre qu'on est là, mettons, dans le studio pour faire telle affaire, ben ça donne pas telle affaire, genre. Fait que je comprends pas pourquoi, mettons, toi, tu devrais avoir ça, toi, ça, 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 selon des hiérarchies, selon des... Tu sais, on dirait le monde vont se battre pour des pourcentages qui, mettons, à LA, vu que peut-être le pain est plus gros aussi, c'est moins... Le monde veut juste faire de la bonne musique, que ça sorte, avoir des crédits, pis tout, pis... Tandis que, des fois, ici, j'ai l'impression que ça se bat... Tu sais, que si on serrait les coudes, ça pourrait aller beaucoup plus, genre... haut, mais vu qu'on est limité avec les subventions qu'on reçoit, avec le cash que ça génère, veux pas, il faudrait que toute la population entre 15 et 35 ans ish écoute comme 4 fois ton track pour que tu aies un disque d'or aussi. C'est vraiment beaucoup
de facteurs
qui font que. Mais qui font que je pense que ça amène les gens à penser comme ça, mais j'ai pour dire que.
je retournerais vivre à LA n'importe quand pour juste la méthode de vie, la méthode de travail, la simplicité de créer. Puis comme tu peux aller dans un studio, faire une musique, puis tu n'es pas en train de te casser la tête de genre, OK, mais là, telle affaire de tel éditeur, de tel ci, de tel ça, de tel... Tu sais, comme, s'il y a un éditeur, l'éditeur mange. Si j'ai un éditeur, l'éditeur mange, puis c'est tout fair split. Puis je pense que c'est une mentalité qui ferait du bien, qui arrive de plus en plus ici. Puis j'ai la chance de le voir arriver de plus en plus ici. Il y a de plus en plus de gens avec qui je travaille puis que je rencontre dans le milieu qui ont cette mentalité-là. Puis je pense que c'est en train de revenir. La scène au Québec est en train de grossir. Tu sais, ici, souvent, on pense que c'est normal d'avoir un producer pour un artiste, puis that's it, puis le producer fait tout l'album. Puis it's good. L'album, souvent, va être incroyable et tout. Mm-hmm. Mais tu sais, tu check une toune de Ariana Grande, il y a 12 writers dessus, puis c'est genre... I want it, I got it, le refrain. Il y a 12 writers sur la track.
12
mais
writers.
S'il n'y avait pas les 12 writers sur la track, est-ce qu'Ariana Grande aurait fait le même succès? I don't think so. So je trouve que c'est une mentalité qui gagne à évoluer ici. Puis je suis vraiment fier du Québec et de la culture de voir que même si j'avais beaucoup de reproches à faire à ce niveau-là, mm-hmm. tranquillement, c'est en train de flip. Puis je travaille de plus en plus avec du monde qui, comme pour eux, c'est juste instinctif et naturel, le Nashville Split. Puis fair play, puis ça me rend juste plus en confiance de où est-ce qu'on s'en va avec tout ça.
Ben ouais, puis comme tu le disais juste avant aussi, le fait que ici la musique se fait en français, en anglais, c'est un autre split, un autre écart qui vient un peu mm-hmm. Influencer dans le game qu'il faudrait pas, comme tu le fais avec ton gars, des collaborations avec des refrains en anglais ou des verses en anglais. Je pense qu'il en faut de plus en plus des trucs de même, des collaborations, même peut-être de projets. Ici, c'est pas ouais. compliqué. C'est d'être naïf ou de mentir que dire que c'est juste le game en français. On se parle, on va parler, comme on l'a dit dans le podcast auparavant, on va parler 2, 3, 4 langues dans 2, 3 phrases, des fois ici à Montréal.
C'est vrai.
On a des gens de cultures différentes. C'est ça qui fait un peu, c'est ce qui fait augmenter notre valeur, c'est ce qui nous différencie, c'est le melting pot culturel, tu sais, puis on apprend à être ensemble, on se diversifie ensemble, puis il faudrait que ça se transmette plus dans la musique,
dans
je
la
crois.
Musique, ben, c'est ça, puis j'ai l'impression que les formats sont faits depuis longtemps. Puis qui n'ont pas été changés. Mais tu sais, comme tu dis, à Montréal, il va y avoir beaucoup de cultures, beaucoup de personnes qui vont parler de plein de langues différentes et tout. Fait que c'est important de préserver la langue française. Mm-hmm. Mais tu sais, si tu dis à un enfant tout le temps, va pas là, hey, ça là, va pas là, ouvre pas cette porte-là, il va y aller. Mm-hmm. Tu sais, fait que je trouve que c'est un peu ironique de dire genre, parlez juste français. Ça donne pas le goût, tu sais, malheureusement. Puis même moi, qui est un grand défenseur de la langue française, que j'ai eu la chance d'avoir été invité dans une école pour pouvoir donner des ateliers d'écriture pour intéresser les jeunes à la langue française. J'écris un livre avec ma grand-mère en ce moment. J'étais en train de rédiger des recueils de poésie aussi. Tu sais, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Mais je pense qu'il y a des façons de le faire qui sont plus le fun pour la nouvelle génération, pour comme la nouvelle réalité du monde, de rester accroché à la langue française, qui n'est pas juste comme « OK, ben on va juste jouer du français », parce que là, ça donne comme l'effet inverse, puis là, le monde va aller écouter des États-Unis. Puis tu sais, ce qui est plate aussi, c'est qu'avec la radio, ben t'as un barème anglais-français à respecter. Mm-hmm. Mais tu sais, si tu mets Drake ou Kendrick sur ton poste, le monde, il reste sur le poste. Puis s'ils entendent quelqu'un qu'ils n'ont pas nécessairement entendu, ben il y a moins de place. Fait que ce qui fait que les artistes anglophones ne passent pas à radio parce que ben là, ils doivent respecter ce barème-là, mais en même temps, s'ils mettent Drake, ça va plus streams que s'ils mettent Since 99, mais Since 99 vient du Québec, il pourrait faire en sorte qu'on change tranquillement les choses, mais on ne lui donnera pas son push. Puis il y a beaucoup d'artistes complètement incroyables sur la scène même de rap qui rappent en anglais, puis que les débouchés sont vraiment plus difficiles. Puis gros shout-out aux gens comme Mindflip qui ont réussi à briser cette barrière-là. Tu sais, c'est plus difficile, mais c'est pas impossible. Puis j'ai du gros respect pour les gens qui réussissent quand même à think outside the box puis de réussir.
Mais
j'aimerais ça de voir un peu l'industrie donner un peu plus de chance à la langue anglophone parce que, veux, veux pas, c'est quand même... Ça fait partie de Montréal, ça fait partie de notre culture depuis tout le temps.
Il faut la mettre l'avant, il faut être vrai, puis arrêter de dire que c'est juste français ou que c'est juste anglais, c'est les deux, puis de l'incorporer, puis de le mettre de l'avant pour qu'il y ait une place pour tout le monde, finalement. Puis même dans les shows, pourquoi qu'il n'y aurait pas des shows avec du français puis de l'anglais? On comprend tout l'anglais, il y en a qui ne le parlent pas, mais ils comprennent. De toute façon, à la base, même les gens qui écoutent du rap, ont probablement commencé avec le rap anglophone pour se rendre à écouter du rap francophone. C'est sûr qu'aujourd'hui, en 2025, puis je le vois, les jeunes commencent déjà à l'école secondaire, boum, ils écoutent déjà du rap français, une réalité que moi, quand j'étais jeune, était moins là. Oui, t'avais des Sans Pression, des Domatiques, des Mosaïnes, ils vont crever, mais tu sais, t'avais pas 1000 artistes. Mm-hmm. Tandis qu'aujourd'hui, je trouve la scène s'est vraiment épandue, a pris de l'expansion. Puis les jeunes, là, ils ont plein d'artistes déjà là, quand ils commencent à écouter du rap. Mais ils écoutent aussi du rap des States ou de la France.
De partout.
Ben ouais, puis il faut l'incorporer. On le voit, même la France fait des featuring, des Booba avec Rick Ross ou whatever quoi. ça marche, la formule est là. Puis nous, comme on l'a dit plein de fois sur la plateforme, on est les francophones d'Amérique du Nord. Fait que c'est ça notre sauce, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. On a le swag américain, comme les Français vont le dire, que là, on le voit dans les dernières années. Je trouve qu'ils essaient pas d'imiter notre sauce, mais je pense qu'ils l'ont, acknowledge un peu. Là. Ils nous amènent dans le game, puis ils comprennent un peu plus notre flow. On le voit même avec leur slang, tranquillement. Ils disent des anglicismes. On trouve ça drôle un petit peu, parce qu'ils sont toujours en train de se foutre un peu de notre accent, puis comment qu'on parle. Mais après ça, eux autres, quand ils parlent en anglais, je trouve que c'est pas mal plus nous autres qui en rient. Mais je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Hein. Puis nous aussi, des collaborations avec des artistes francophones, de la francophonie de l'autre côté, de la France, de l'Europe. Je pense qu'on en voit de plus en plus, comme tu l'as fait, avec d'autres artistes aussi. Je pense qu'il faut en faire de plus en plus, aller faire des shows l'autre bord, eux, quand ils viennent ici, pas pour faire des shows, pas juste les faire performer, puis le lendemain, ils retournent en Europe. Non, le lendemain, on les invite dans un podcast, à faire une collaboration en studio, t'es trimballes dans d'autres studios qui voient la scène, qu'il y a des liens qui se tissent. C'est ça qui est important de faire, tu sais, d'expandre le game, comme on le dit. Là. On est là, on connaît notre force, on a plein de bons artistes, plein de bons producteurs, vidéographes, la scène a se bâtit de plus en plus, mais il faut resserrer les liens, des collaborations avec des anglophones, avec des francophones, à pas avoir peur de ça. Je trouve qu'à Montréal, souvent, comme tu l'as dit, on dirait que les gens ils veulent comme retenir quelque chose de peur de l'échapper, mais je pense qu'il faut arrêter de penser comme ça, puis d'inclure plus que d'exclure.
J'ai jamais été autant épanoui, heureux dans ma musique, puis en confiance de ce que je faisais, que depuis que j'ai une grosse équipe derrière moi qui m'aide à prendre des décisions de ci, de ça. Puis pour moi, tu sais, je préfère avoir 30% d'une pizza que d'avoir 100% d'une petite tartelette, là, tu sais, genre. Mm. Puis l'affaire, c'est que des fois, c'est ça ici, les gens vont tellement essayer de se concentrer, avoir le plus de pourcentage possible, parce que, tu sais, c'est pas full genre payant ou whatever, mais ça sera jamais payant si on fait pas plus avancer les choses.
Exact.
Fait que tu sais, c'est correct, c'est important de penser à son morceau de pain, mais à la fin de la journée, c'est encore plus important de bâtir une société où ce que tout le monde mange, puis qu'on grandit ensemble, puis là, on a vraiment le poids pour faire avancer les choses, parce que t'es pas toi qui est rendu un peu plus connu, qui peut essayer de faire changer les choses. Mm-hmm. Vous êtes un team qui a évolué, qui est un peu plus connu, qui peut faire avancer les choses, puis là, la force du nombre, c'est beaucoup plus difficile après ça de pas faire valoir son point, puis tu t'avances avec des gens qui véhiculent puis qui vibrent sur les mêmes énergies que toi. Un peu comme vous faites ici au podcast, hein. Tu m'as présenté toute ton équipe, tu avais des lumières dans les yeux, tu sais. Ça se voit que tu es passionné par ce que tu fais, puis ça se voit que ton équipe est passionnée par ce qu'elle fait, puis que c'est ce qui crée cette unité-là.
Ben
c'est ce qui va faire que la plateforme va juste elevate, right?
Let's go!
Fait que c'est le même principe un petit peu pour moi. J'ai l'impression que, oui, c'est important de checker ses affaires quand même, pas abuser non plus, mais plus qu'on est à s'entraider, plus qu'on a serré les coudes, c'est là qu'on va pouvoir vraiment aller à la guerre puis faire de quoi,
je pense. Puis plus que le game va grossir, va augmenter, qu'il va avoir de médium à aller, que ce soit, comme on le disait, les plateformes de podcast, les shows, les radios, tout ça, plus qu'ils vont accepter le game, puis plus qu'ils vont grossir, plus que l'artiste va pouvoir en tirer parti puis grandir lui aussi de par ça. C'est pas juste de se concentrer sur toi pour que toi, tu sois gros, mais si le game est plus gros, ta part va être plus grosse dans le game aussi. C'est relatif. Mais ça, c'est avoir une vision de grandeur. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui l'ont, mais on le voit, les choses changer. Ça s'en va vers le bon sens. Faut continuer de travailler fort, l'acharnement, la patience, croire en soi, on le dit, c'est ça qui va t'amener au niveau supérieur. Puis c'est ça, on le voit, les jeunes artistes aujourd'hui, de plus en plus jeunes aussi, je trouve. On voit des artistes 14, 15, 16, 17 ans. On voyait pas nécessairement ça tout le temps avant. Là, ouais. Je trouve que les jeunes comprennent de plus en plus tôt qu'ils peuvent rentrer dans un univers, puis que puis qu'il y a une place pour eux. Fait que ça, je trouve ça le fun, je trouve ça encourageant. Après ça, c'est mettre l'effort, comme on le disait, sur des collaborations, sur ton branding, sur des shows, les radios aussi pourraient inclure de plus de musique, de rap, comme on le disait, au lieu de mettre du Drake de Toronto, puis peu importe qui d'ailleurs, d'essayer pas juste mettre de la musique d'ici, mais d'emphaser un petit peu plus. T'sais. Puis oui, il y a de la pop, mais il y a du rap, puis il faut arrêter d'avoir la vision négative là-dessus. On dirait qu'ils veulent pas l'inclure à cause du message ou du style vestimentaire.
Mais de moins en moins. Puis tu sais, il y a beaucoup de radios comme, mettons, SiriusXM, que je peux écouter SiriusXM, puis qui vont jouer comme du gros rap. Puis des fois, je vais entendre un banger sur SiriusXM, puis je vais faire genre « Hein! » Puis tu sais, il y a une de mes tunes qui a roulé pas mal sur Sirius, que j'aurais jamais pensé que c'était une track radio. Mm-hmm. Je dis comme « fucked up » dans le refrain. Puis tu sais, il y a beaucoup d'anglicisme. Puis c'est comme, ça marche pas dans les codes radio. Fait que de plus en plus, c'est accepté pour comme la radio, ça. Fait que même s'il faut que ça évolue, au moins, on sait qu'on est déjà dans la bonne place, puis on est déjà dans la bonne direction. Tu sais, avant, il y avait vraiment pas de rap à la radio. Puis là, tu sais, depuis « Toutes les femmes savent danser », entre autres, de Loud, mm-hmm. qui a réussi à nous ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Il y en a de plus en plus. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y en ait aussi un peu plus pour l'anglophone aussi. Mm-hmm. Mais on peut pas tout demander, puis on peut pas tout recevoir en deux secondes. Mais je suis vraiment content quand même de voir que, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, on est dans la bonne direction. Je pense que ça s'en va vers une bonne direction. Les gens sont de plus en plus ouverts d'esprit. Les gens sont de plus en plus conscients de ce que c'est. Puis, tu sais, pour les jeunes aussi, ils ont de plus en plus de modèles. Tu sais, comme quand moi, personnellement, j'étais plus jeune, j'avais certains modèles, puis j'en avais déjà comme quelques-uns. Puis ces modèles-là, ben eux, il y avait Mosaïen sans pression comme modèle. Puis, tu sais, là, il y en a de plus en plus. Puis ce qui est cool, c'est qu'après ça, ben tu peux vraiment choisir à qui tu t'identifies. Ça crée qu'une plus grande diversité de musique. Tu peux plus facilement relate à un artiste parce qu'il y a plus comme ta personnalité ou whatever. T'es pas juste comme les quatre gros artistes qui sont cool. Toi, t'es comme plus introverti, puis t'es comme, ah, tu sais, je relate moins. Puis maintenant, il y a toutes sortes d'artistes, puis tout. Puis ça, c'est une grande richesse aussi là, pour comme faire avancer les choses. Après, tu sais, c'est sûr qu'à la radio, ce qui a toujours marché, c'est des codes. Mm-hmm. Fait qu'ils vont y aller avec les codes. C'est cool qu'il y ait des radios comme Sirius ou CIBL qui brisent ces codes-là puis qui laissent la place. Mais on aimerait ça que les radios commerciales là, essayent de briser un petit peu plus les codes. Parce que comme tu as dit, il n'y a pas juste le pop, puis il n'y a pas juste le pop français. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui valent la peine d'être entendus. On a une scène incroyable. T'sais, on chiale sur l'économie et tout, mais on a plein d'artistes qui sont là, qui pourraient être entendus, puis faire aider l'économie à rouler.
Ben ouais. Ça vaut la peine. De plus en plus, le Québec est reconnu à travers le monde pour plein de choses. Le jeu vidéo avec Ubisoft, des athlètes olympiques, que ce soit le hockey ou d'autres styles. On le voit, on est là. Faut arrêter de penser comme le petit peuple que souvent ça a été le Québec. On prend de l'expansion, on est là. Puis on commence à être rayonné à travers le monde. La musique, je pense que c'est le next step. On a eu des Céline Dion, aujourd'hui des Charlotte Cardin un petit peu qui sont capables de toucher le monde entier. Mais il y en a d'autres, le rap, je pense que c'est la prochaine étape. Puis que ça se passe de plus en plus. Puis tantôt, je trouvais ça intéressant, tu me parlais de recueil de poésie, puis un autre livre aussi là, que tu écrivais avec ta grand-mère.
Ouais, exact. Mon dernier hippie s'appelle Monnaie courante. Puis Monnaie courante, dans le fond, c'est autant l'expression de comme, tu sais, c'est récurrent, tu sais, c'est monnaie courante. Mais aussi, c'est une expression qui vient de l'époque des rois. C'était une devise de devise monétaire qui pouvait passer toutes les frontières. Fait que c'était une monnaie qui était une monnaie courante, c'était une devise avec laquelle peu importe où était reconnue, comme le cuivre par exemple ou l'or, tu sais. Puis ce que j'aimais avec ça, c'est de faire passer ma devise peu importe la frontière, peu importe genre sans limite, puis d'en faire comme un mode de vie, qu'à chaque jour dans ma vie que ce soit monnaie courante, de faire monnaie courante. C'est un petit jeu de mots, puis c'est pour ça que la pochette qui a été design par Photo Bouvier puis ma copine ensemble, c'est vraiment comme moi qui se court après dans une cage d'escalier à l'infini. Mm-hmm. C'est un petit peu, c'est un peu ça. C'est juste que comme toujours répéter un peu genre ce cycle-là, de se rappeler de projeter comme ta devise et tout. Puis à la base, une des raisons pourquoi je voulais faire de la musique, c'est passer un message puis aider des gens. Puis parce que je me disais, moi, ça m'a aidé. J'ai peut-être des trucs à dire, je vais me défouler, puis si ça peut aider du monde, ben tant mieux. Fait que c'est ça, tu sais, d'essayer d'intéresser les jeunes avec un recueil de poésie, tu sais, juste ça me permet de me libérer, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer lire, puis ils vont peut-être se reconnaître plus facilement que là-dedans qu'avec un beat rap. C'est pas nécessairement quelqu'un qui va écouter du rap, mais qui vont aimer les textes. Ma grand-mère, par exemple, tu sais, si j'y montre, mettons, un poème que j'ai écrit, elle va trouver ça cool. Si j'y mets la musique, elle va peut-être trouver ça moins cool, tu sais. Fait que ça va chercher comme un autre public, puis ça peut aussi dévulgariser le rap, tu sais, en voulant dire que de moins en moins, c'est vu comme ça, mais longtemps, le rap, c'était... Mm-hmm. C'était juste ça, tu sais, le rap, c'est ça.
Les choses qu'on voit aux nouvelles, ils mettent « Ah, oh, c'est un rappeur, un autre rappeur qui a fait telle affaire. »
Puis mettons Richard Martineau qui va dire « Le rap, c'est ça, 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 ça. » Mais tu sais, je fais du rap puis je parle un meilleur français que lui qui est médiatisé. Fait que, à la fin de la journée, le rap, c'est quoi? C'est une façon de t'exprimer, c'est une façon... Puis oui, il peut focusser sur le négatif puis dire « Ok, ouais, mais lui, il fait ça de même. » Fait que nanana. Mais au final, genre, tu fais juste porter du jugement, puis c'est ce que tu reproches aux artistes de faire. Fait que je trouve ça un petit peu...
Puis la musique, à la base, c'est transmettre une émotion. Après ça, dans le rap, il y a plusieurs styles, mais à la base, c'est rythme and poetry. Exact. So, en français, le rythme et la poésie. Puis c'est ça, ça part de là. Toi, comme tu l'as dit, puis on le voit dans ta musique, beaucoup opté sur la plume, l'écriture. On le voit dans tes mélodies aussi. Grosse force à toi, shout-out à toi pour ça. Je le vois dans tes textes, tes refrains, des bons refrains, des hooks accrocheurs. La mélodie est là aussi. Tu vas chercher une émotion, c'est le fun, puis ça se transmet vraiment bien. Félicitations pour ça. Puis, pour les shows, tu me parlais là, des Francofolies, Belmont. Y a-tu un endroit que tu as performé que, genre, pour toi, là, ça t'a vraiment marqué? Puis encore aujourd'hui, tu te rappelles de ce show-là? Y a-tu des salles de spectacle que tu trouves qui sont les meilleures à performer? Parle-nous un petit peu de ça.
Je dirais, en termes de petites salles de spectacle, tu sais, comme quand même low-key, je dirais que le ministère, c'est vraiment, vraiment cool. Le son est incroyable. De la façon que la scène est faite, je trouve que c'est bien fait aussi. Tu peux rentrer quand même beaucoup de monde. Ça look jam, facile. L'éclairage, tout. Je trouve que c'est vraiment une belle place.
Le ministère qui est où?
Ministère, c'est à Montréal.
OK.
Ministère à Montréal, c'est comme une... C'est comme une vieille édifice, on dirait une vieille banque. Je sais pas exactement c'est quoi, puis je veux pas désinformer l'auditeur.
Okay.
Mais on dirait que c'est une vieille banque qui ont comme rénové pour faire de quoi, mais c'est vraiment, vraiment beau. Puis,
sur quelle rue, ça?
C'est dans le coin de Mont-Royal, je pense que c'est Saint-Lô, mais je veux pas...
Dans ce coin-là, parfait.
Dans ce coin-là. Sinon, honnêtement, moi, c'est les scènes de festival qui m'ont le plus marqué. T'sais, les scènes comme Métro-Métro, les Franco ou Festival Osisko en lumière ou même des trucs un petit peu plus petits, je dirais que t'sais, quand j'ai fait Festival District aussi, ben, un petit peu, c'était quand même très bon, mais j'aime tellement ces scènes-là. Déjà, t'sais, il fait souvent chaud. Fait quand tu le fais, t'es dehors, déjà, t'sais, tu bouges, t'as le vent en même temps, même s'il fait plus chaud, il y a quelque chose de vivant, t'sais, mm-hmm. Tu respires, genre. Après ça, au niveau du son, je trouve que c'est comme le son, il s'en va genre au loin, puis comme il y a pas de limite où ce que ton son va, tu sais, juste visuellement, tu chantes puis on dirait que t'as pas de limite, tu vois pas un mur à la fin. Mm-hmm. Fait que c'est comme c'est moins comme si t'étais dans un espace clos. Puis même des grandes salles que j'adore comme mettons le Club Soda, mais tu sais, vu le fait que t'as un mur à quelque part, on dirait que mentalement, moi je me sens moins libre de me laisser aller que si je vois je suis comme dehors puis que il y a un horizon avec une foule. Fait que moi, j'aime ça faire des shows à l'extérieur beaucoup, les scènes de festival. Le son aussi, je le trouve super sharp à chaque fois, étonnamment, mieux dehors souvent qu'en dedans. Puis pourtant, tu sais, j'ai fait des salles comme Club Soda, rien à dire sur le son, mais il y a un cachet qui va faire en sorte que je vais tout le temps aimer un peu plus dehors. Ça va tout le temps, je sais pas, genre,
ça va chercher
vraiment,
une autre émotion, je peux comprendre, ouais, ça doit être quelque chose. Et on le voit aussi dans les gros shows, souvent un petit peu plus de spectateurs aussi quand c'est à l'extérieur. Ils peuvent se permettre d'avoir plus de monde. Des fois, ils viennent pour toi, des fois, ils viennent pour un autre artiste. Fait que c'est le fun aussi d'aller peut-être chercher des fans qui n'étaient pas vraiment les tiens au départ, mais là, qui apprennent à te connaître comme ça. Dans les festivals, c'est souvent ça que j'entends. Vu que c'est des plus gros line-up, des fois aussi, ben, tu as des fans pour chacun des artistes. Fait que là, ils sont pas venus nécessairement pour toi. Fait que là, ça passe sa case si tu es capable de les accrocher puis qu'ils embarquent dans ta sauce. C'est un autre défi qu'en show ou ce que c'est, on va dire, il y a moins d'artistes dans les shows intérieurs. Ben là, c'est souvent plus tes fans, fait qu'ils connaissent déjà ta musique. Fait que j'imagine qu'il y a une différence sur l'émotion un petit peu là-dedans. Puis, tantôt, on parlait de tes featuring. Un que j'ai oublié, que tu as fait, si je me trompe pas, l'année passée avec Raccoon.
Oui, mais Raccoon, c'est... on a fait plusieurs featuring. Il m'a invité, j'ai eu la chance de performer avec lui au Franco. Il m'a invité sur son set. On a fait deux de nos tracks, Endommagés sur son album. Allez voir le morceau, c'est incroyable. Puis Distant, qui est la chanson que je parlais, exact. Justement, où à LA, on a pu avoir des danseurs avec un échange de services. Puis, tu sais, Raccoon, on travaille ensemble depuis quand même vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Puis, tu sais, les deux, on a pris une direction qui est un petit peu différente musicalement, mais on se respecte tellement pareil, fait qu'on continue, tu sais, on s'envoie du love, puis j'aime tellement travailler avec lui, puis je sens que c'est réciproque, puis c'est comme naturel. On a un groupe d'amis aussi qui est comme commun, qui nous a comme linkés facilement ensemble. Puis gros shout-out à ces gars-là, Antoine Latreille, que vous avez sûrement entendu parler souvent, qui est derrière Raccoon, mais ça a été le gérant de mon studio aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de trucs qui sont faits à mon studio, dont la table, puis mon tableau, que c'est lui le tableau, c'est lui qui l'a fabriqué, puis la table de mon studio, c'est lui qui a trouvé un ébéniste pour le faire. Il était vraiment investi dans mon studio, fait comme vu que c'était le gérant Raccoon, puis qu'il était vraiment beaucoup associé au studio, puis on s'est comme un peu, pas dissocié parce qu'on travaille encore comme finement ensemble, c'est juste qu'avec la COVID, il y a eu beaucoup de changements. Lui, au début, il travaillait dans un truc de recyclage. Fait que lui, il pouvait gérer des trucs sur son téléphone, puis il passait de métro en métro, il faisait des trucs de recyclage. Puis avec la COVID, bien, il a dû faire comme un changement où ce que il y avait peut-être moins de temps à investir justement dans le studio et tout. Puis nous, avec la COVID, ben comme le chiffre d'affaires, il a foutu le camp pendant un temps sur le coup, parce que je pouvais pas légalement avoir de clients pendant un bout. C'est là qu'on a pris comme deux chemins, mais que tu sais, on se fait tout le temps un bon petit sport réfléchi, m'invite tout le temps une fois de temps en temps, puis on jase, ça reste la famille. Puis tu sais, il y a des amis que même si tu vois un peu moins, ça reste autant tes frères. Mais tu sais, Raccoon, Sibuna, Michaud, puis justement Antoine en font partie, là, c'est des frères à vie, là.
Ben ouais, puis comme tu disais, peut-être vos styles de musique se sont un peu différenciés à toi puis Raccoon au travers le temps, mais la ligne directrice, je pense, qui vous unit entre les deux, c'est la plume.
Exactement, puis je pense que c'est pour ça qu'on va tout le temps, peu importe le format et tout. Tu sais, moi, j'ai fait plus de trucs un peu chantés aussi dans les derniers temps, puis tout, qui venaient un peu moins rejoindre peut-être à certains moments. Puis des fois, on fait un bon t'sais, kickage de verse à l'ancienne, puis les deux, on feel, genre, puis tout. Puis moi, tu sais, quand j'étais vraiment jeune, je voulais chanter. J'ai juste jamais eu la voix, puis j'ai eu la chance d'avoir Sins qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'ai pris des cours de chant et tout. Fait que tu sais, je veux pas devenir un chanteur. Je veux juste... Tu sais, je sais que je suis pas un chanteur qui rappe bien. Je suis un rapper qui sait faire des notes. C'est pas pareil, tu sais. Fait que tu sais, je vais pousser ma voix, je vais être capable de faire des trucs, mais mon but, c'est toujours de rester... pas dans le populaire, mais dans le rythme et poésie. C'est juste de le rythmer d'une façon où, que même si je dis quelque chose de lourd, c'est peut-être un petit peu plus attrayant à l'oreille.
Ouais. Puis tu nous parles des gars comme Sins. C'est-tu des gars que tu as appris à connaître de par le studio, qui sont venus enregistrer, puis que la chimie a bien marché, vous avez décidé d'aller de l'avant?
Sins, c'est quand même fou son histoire, comment on s'est rencontrés. Ouais, c'est quand même fou comment on s'est rencontrés, parce que dans le fond, j'ai vu un vidéo Instagram de lui qui chantait. Il avait l'air d'avoir 12 ans. Il chantait à sa guitare, puis C'était un truc... je sais pas si c'était Tupac ou Triple X. Triple X, il venait de décéder. Puis il faisait des petits lives sur Instagram en noir et blanc. Il avait l'air d'avoir genre 12-14 gros max. Puis il chantait, puis il rappait. Puis j'étais comme, mais c'est qui ça? Tu sais, j'ai like, j'ai commenté ces trucs. Moi, je venais de faire justement ma première apparition au Club Soda, c'est platine. Puis Farf m'avait dit, fais ton... J'ai comme un a cappella que j'avais écrit quand j'avais 17 ans, puis qui m'a suivi. Comme même hier, je le faisais encore. Puis c'est un a cappella qu'à chaque fois je fais en show, ça marche. Tu sais, c'est genre un... C'est comme une grosse passe de flow. Puis lui, il a vu ça sur Instagram, puis il était comme, hey, j'aime vraiment ça. On pouvait connecter, tu sais. On s'est vu au studio, puis ça a juste tellement cliqué. Puis justement, lui, il voulait pas parler de pourcentage ou whatever, parce qu'il y avait eu des. Tu sais, il a fait la voix, puis ça lui a donné, mettons, des opportunités. Puis à travers ces opportunités-là, il y a des opportunités qui n'étaient pas toujours roses. Puis ça l'a un petit peu blasé de l'industrie, puis de comment l'humain, puis l'homme pouvait être. Genre greedy about genre de l'or, genre sur un kid, là, legit. Là. Fait que, tu sais, nous, on s'était juste, check, on fait une toune, on la sort, si on veut la sortir. On fait juste une toune, on check ça, on se casse pas la tête. Puis, tu sais, on n'a jamais eu de contrat, mais on a bâti quelque chose de gros. On s'est vu à chaque semaine, ça a juste fait effet boule de neige. On a appris à se connaître, puis, tu sais, aujourd'hui, c'est legit mon frère, là, tu sais. Que c'est. On a vraiment comme grandi, mais à la base, ça sortait juste de. J'ai vraiment aimé son énergie, aimé mon énergie. On s'est vu en studio. On était à peu près à la même place mentalement de où, comment on voyait l'industrie et comment on voyait notre session. Moi, j'étais comme, check, on va juste faire une chanson. On check après. L'important, c'est juste de créer. Après, on check. Puis finalement, on s'est ramassé à vivre ensemble à LA un moment donné, tellement on était comme soudés. Fait que je te dirais, c'est vraiment ça qui est parti.
Puis j'imagine qu'avec le studio d'enregistrement, tu viens avoir souvent des nouveaux talents, des nouveaux artistes qui embarquent dans le game. Ça doit t'ouvrir les yeux aussi sur des nouveaux styles. La scène, j'imagine, à Anjou. Je ne sais pas si c'est beaucoup une communauté artistique de Anjou même ou du monde de l'extérieur qui viennent. J'imagine que tu dois connaître beaucoup d'artistes de par le studio. Est-ce que ça t'arrive des fois de faire des collaborations qui ont commencé jusque... t'enregistrais quelqu'un, puis finalement, c'est devenu plus que ça, admettons?
Oui, c'est arrivé une couple de fois, puis que je travaillais avec... Il y a beaucoup de gens aussi que j'ai commencé à faire un clip, là, finalement, ils ont été au studio, là, finalement, je leur ai fait un beat, là, finalement, j'ai été sur leur album. Fait que, tu sais, ça découle beaucoup, puis... Tu sais, des fois, musicalement, je peux vraiment aimer la musique d'un artiste, mais je sais que DAY, ça va pas marcher. Tu sais, la direction artistique, tu sais, que comme... Je vois pas l'unicité, puis que moi je peux adorer comme le track, mais que je vois pas comme où ce que les deux on pourrait se rejoindre dans nos sujets, puis d'écrire quelque chose qui va être un livre qui se découle du début à la fin, puis à travers les histoires, les ci, les ça. Fait que je te dirais que je suis quand même sélectif sur mes featuring parce que j'essaie de raconter une histoire. Fait que je veux que chaque élément de mes chapitres se suive d'une certaine façon. Mais j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec beaucoup de gens, justement, à travers le studio qui sont devenus carrément des amis. J'ai un client qui était au studio qui est devenu un ami avec qui on est allé à Toronto, que c'est lui qui m'avait trouvé ma gig de DJ là-bas. Fait comme, tu sais, c'est cool parce que, comme je disais tantôt, la musique, c'est vraiment un langage universel des émotions. Fait qu'à la base, si l'énergie est bonne dans la pièce, t'es sûr que ce que vous allez faire, ça peut pas être mauvais parce que l'énergie est déjà bonne, puis tu fais juste transmettre ton énergie dans un micro. Parce que l'énergie est bonne, la tune est bonne de base, tu sais. Fait que j'ai vraiment cette philosophie-là. Fait que souvent, c'est ça, comme les gens avec qui je vais travailler, ben ça devient mes amis souvent parce que ben on vibre sur des bonnes énergies, puis quand ça clique, puis qu'on fait plusieurs projets ensemble, c'est parce qu'il y a quelque chose qui clique vraiment à travers nos énergies, puis qu'on vibre sur la même fréquence.
Ben ouais.
Fait que souvent, ben c'est ça, ça va devenir des bons chums.
Ben ouais. Puis tantôt, on a parlé des Word Up, Raccoon. Je pense qu'il y a un petit mix entre les deux qui s'est fait dans La Fin des Faibles.
Oui.
Une émission que tu as participé dans les dernières années, que Raccoon était sur la plateforme aussi, je me trompe pas. Là.
Ouais, mais les deux, on a été finalistes, puis on trouvait ça quand même drôle parce que c'était pendant le confinement, tu sais. Puis il y avait personne dans la salle. Mais tu sais, du freestyle, j'en ai fait beaucoup du freestyle, c'est à travers les Ends of the Week, qui était La Fin des Faibles avant que ce soit la télé.
Okay.
Puis ça s'appelait Ends of the Week, puis c'était des concours, tu pouvais comme, c'était mondial. C'était les mêmes 5 épreuves. Puis j'en avais fait une coupe, puis c'est tellement pas pareil quand il n'y a pas de public. Tu sais, le freestyle, souvent, tu vas prendre l'énergie que la foule te donne, tu vas leur redonner. Ils vont te la redonner, tu vas leur redonner. Puis là, t'as juste, genre, 4 caméras, si c'est pas plus. Les juges sont, genre, à 1 kilomètre dans le fond de la salle. Tu sais même pas s'ils t'entendent comme du monde. J'ai appris que pas tout le temps. Puis, fait que, tu sais, c'est comme... C'était spécial comme univers, mais c'était vraiment le fun comme expérience, puis c'était dépaysant. Mais c'était spécial en mode, genre... J'ai jamais fait ça, moi, du freestyle, où ce que tu me dis exactement comment parler à telle personne. OK, 45 degrés, là, tu fais 2 pas, tu parles, OK, lui va te poser une question, tu réponds 2 minutes, tac, tac. Là, tu essaies de te rappeler tout ça, tac, OK, là, je dis ça. Boum, le beat part. Là, t'es comme, oh, faut que je freestyle. C'est weird, genre. Mais puis c'est ça, puis on pratiquait pour le freestyle pendant le confinement. Puis... la police est venue parce qu'ils pensaient qu'il y avait un rassemblement illégal, genre et tout. Puis finalement, ben c'est ça. Nous, on n'avait pas le droit de dire comme qu'on faisait une émission. On se laissait aller. On leur a dit. Finalement, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est ça, c'est quand même le fun parce que même avec lui, on a eu cette épreuve-là où on était censé être des compétiteurs. Mais on s'aidait, puis on s'aidait pas à écrire nos trucs. T'sais, il écrit ses propres trucs, j'écris mes propres trucs, puis on se les montrait pas nécessairement. Mais on se pratiquait à freestyle, à juste se partager de l'énergie, à faire comme nous, on est dans un era où on n'a pas le droit de se voir, puis nous, faut freestyle devant genre plein de monde à la télé. Ça serait bon que juste on revive ce social-là, qu'on se repartage nos passions, que tu montes une tune que tu écoutes récemment, que tu aimes, parce que c'est aussi ça la culture hip-hop, puis genre le rap. Fait que je trouvais ça cool que même si on était censé être des compétiteurs, on était tous des amis, genre on était tous, tu sais, en finale du monde qui s'aimait, genre on se respectait tous.
Ben ouais, puis c'est la base du rap, du hip-hop, c'est le freestyle sur le coin d'une rue avec un public devant toi. C'est pas juste tout seul dans le miroir, tout seul chez vous, là. C'est devant public, c'est la confrontation, comme dans les Word Up, un peu, tu en as parlé au début. Ça, c'est un petit peu la continuité de ça, puis ça a été le fun au moins que de voir que le Québec, à la télé, ils ont pu rajouter cette facette-là. Une émission qui a quand même assez bien marché, si je me trompe pas.
Si je me trompe pas, la première saison avait eu comme... ça avait été la deuxième émission plus écoutée après Passe-Partout. Genre, au niveau
let's
des
go.
C'est quand même un flex.
Mais ouais, let's go, man. Ils ont niqué Passe-Partout, man, toute mon enfance. Puis c'est ça, c'est quoi un peu le processus de ça, une émission comme ça? Là, c'est des freestyles, mais admettons, c'est quoi les qualificatifs qui font que tu montes d'une étape à l'autre?
T'as 5 épreuves. Okay. Dans le fond, la première épreuve, c'est un texte libre. Fait que tu choisis ton beat, t'écris un texte, puis tu performes. C'est ce qui se rapproche le plus de, mettons, la musique de studio en général. Mais tu fais ton truc one time.
Mm-hmm.
Deuxième épreuve, c'est la cappella. Là, c'est où que ça met vraiment en valeur la plume. Puis c'est où que je trouvais que c'était tellement intéressant qu'ils mettent ça comme émission de rap à la télé pour montrer aux gens que comme... Les gens, ils ont des trucs à dire. Fait qu'on lève le boum-boum qui va faire qu'il y a bien du monde qui fait musique boum-boum-boum. Puis genre, tu vas voir à quel point le monde a des trucs à dire. Puis le monde, ils ont dit... J'ai vu des textes là, à la fin des faibles qui étaient complètement incroyables. C'était cool de voir qu'on pouvait s'exprimer comme ça. La troisième épreuve, c'est une boîte à objets. On te met un beat que tu sais pas c'est quoi d'avance. Puis des fois, le beat peut changer. Toi, tu piges des objets. Puis il faut non-stop que tu freestyle puis que tu rappes sur les objets que tu piges dans la boîte. Qui est quand même assez sportif.
Exact. Mais, c'est le bon mot, je pense.
Mais c'est quand même le... Ouais, c'est ça. C'est du sport, mais c'est vraiment le fun. L'autre, c'est mon épreuve préférée. C'est MC contre DJ. Ça, dans le fond, c'est le DJ, il peut faire ce qu'il veut avec le beat, puis toi, il faut tout le temps que tu rappes. Fait que tu peux pas arrêter, tu peux pas perdre la balance et tout. Fait que lui, il peut changer le beat, il peut changer le tempo, il peut cut, repartir. Toi, il faut tout le temps que tu sois capable de ride le beat. Le but du DJ, c'est de... c'est de te faire stumble. Puis toi, ton but, c'est genre de montrer au DJ que tu vas pas stumble. J'adore cette épreuve-là. Puis sinon, c'est le cypher. Le cypher, c'est tout le monde va dire, mettons, comme un 4 bars. Fait qu'après ça, ben, première étape, ben, on fait les 5 épreuves. Il y avait une personne qui se rendait directement en finale, une personne qui passait à la sélection, puis 2 personnes d'éliminées. Toutes les gens qui étaient deuxièmes, ils refaisaient un pool pour aller en finale. Puis après ça, c'est ça, c'était vraiment cool comme concept et tout. Je l'aurais peut-être étiré sur plus de saisons. Puis vu que c'était la première émission de rap à la télé, il y avait beaucoup de trucs qui faisaient comme compromis, j'ai l'impression, que si, mettons, ça aurait été moins tabou, mettons, de faire passer du rap à la télé, puis que là, ça pouvait passer, mais en 8 émissions, parce qu'il fallait que ça tombe pendant le mois de leur francophonie, puis that's it, tu sais, puis comme, il y avait plusieurs barèmes qui ont fait que, des fois, ça lookait de télé, puis des trucs que j'étais comme moins, pas à l'aise, mais en tant que quelqu'un qui a fait les Ends of the Week, je trouvais ça différent, puis mm-hmm. dépaysant, justement, de le faire d'une façon qui était comme complètement différente. Autant, ça m'a vraiment aidé à comprendre c'était quoi en dehors, genre, de mes petits cyphers de stationnement, genre, c'est quoi du freestyle? Puis en dehors des Ends of the Week, qui était la seule plateforme que je connaissais puis que j'étais à l'aise dedans. Puis, tu sais, des fois, l'humain, on a tendance à pas vouloir sortir de sa zone de confort parce que c'est difficile naturellement pour l'humain de s'adapter à un nouvel environnement. Autant, c'est ce qui nous a fait évoluer toute notre vie, tu sais. Fait que j'aime ça me faire mettre un peu dans une situation où... Je comprends pas trop ce qui se passe, c'est un peu stressant, il y a plein de caméras, faut que je freestyle, je suis pas à l'aise, mais c'est souvent là que je vais sortir le meilleur de moi parce que faut que tu te dépasses. Et après ça, si je fais des shows maintenant, je suis jamais stressé parce que j'ai fait un show, pas de personne dans la salle, diffusé devant 35 000 personnes, où ce que je freestyle, où ce que j'ai même pas, tu sais, genre tout écrit mes trucs, là, je pige des objets, puis je freestyle des trucs, fait que ça se peut que des fois j'avais dit des affaires, je suis comme, oh mon dieu, j'ai dit ça à la télé. Fait qu'on dirait après, genre, tu sais, je fais un show, mettons, même s'il y a 5000 personnes dans un festival, mais genre, c'est pas stress, je suis juste content d'être là, puis ça m'a comme brisé une gêne qui, avant, tu sais, j'étais sur scène, j'avais le petit mouton. Maintenant, j'ai le mouton avant d'embarquer sur le scène, puis je suis comme, je peux-tu juste la manger, la scène, genre, c'est live, là.
Puis combien de participants qu'il y avait à l'émission, à peu près, t'as-tu une idée?
Je pense qu'on était à peu près 800-900 à avoir candidaté. Ils en ont sélectionné 16. Fait que c'est ça, je pense qu'ils ont sélectionné 16 participants sur comme ceux qui avaient candidaté.
Puis t'as parlé de toi, Raccoon, y avait-tu d'autres participants qu'on connaît dans l'industrie?
Monkey, qui est un artiste aussi avec une plume incroyable. Woodman, énorme chapeau, je parle des finalistes. Woodman, énorme chapeau, parce que lui, en plus, il rappe en anglais à la base. Puis à cause que c'était la fin des faibles, il a fallu qu'il rappe en français. Fait que c'est même pas sa langue de base, c'est même pas sa langue où il est habitué de faire son craft lui-même. Mm-hmm. Puis c'est ce que je trouve cool du Ends of the Week, c'est peu importe ta langue, tu peux participer, puis c'est all good. Nice. Mais là, tu as vu que c'était diffusé dans une émission télé, il y a Basics qui était deuxième champion, ben deuxième au monde en freestyle au Ends of the Week, qui a été sélectionné, mais que lui aussi, il a rappé en français. Mais lui, il est anglophone, là, fait que c'est comme... C'est comme si.
C'est un challenge. Ouais,
c'est plus. Comme si tu disais à quelqu'un comme qui n'est pas nécessairement à l'aise en anglais. Tu dis, toi, tu fais la compétition en anglais. Puis, il avait fait la qualification, puis il l'avait vraiment bien d'aide. Mais, tu sais, s'il l'avait fait en anglais, il aurait été encore plus à l'aise. Puis, c'est un monstre, tu sais. Il y a eu des tracks aussi, une plume incroyable. Il y a eu beaucoup de gens aussi, tu sais, Jam Khalil, qui a été le gagnant de l'émission. Qui est une découverte aussi que je connaissais pas avant, puis qui m'a surpris à travers son côté plus humain, t'sais, plus comme il était fin, genre, il a un sourire, puis quand tu le vois, t'es comme, que là, il fait pas de mal à une mouche, tu sais.
Quelqu'un de terre à terre.
C'est le fun de voir que c'est ça qui est montré à la télévision, que le monde qui pense que le rap, c'est ça, mais check, man, t'as un dude qui rappe avec un gros sourire d'en face. C'est comme... C'est-tu encore ça, le rap? T'sais, même deuxième saison, il y a mon frère D-Baby qui a participé, Gino Deka, qui sont comme plein de gens qui respirent la joie de vivre quand ils rappent. Que même s'ils vont dénoncer des affaires, D-Baby va tout le temps rapper avec un sourire, genre, puis c'est contagieux. T'écoutes sa musique, tu peux pas être mad, même s'il est en train de t'expliquer quelque chose, de dénoncer un truc, puis c'est juste... Il le fait d'une façon, puis genre, c'est good vibe. Fait que j'ai rencontré beaucoup de talents que je connaissais souvent déjà, mais que j'étais content de voir. Il y avait aussi des femmes qui ont participé à l'émission. Amy Ghost qui était sur mon pool et tout. Puis c'était cool de voir qu'il y avait une vitrine pour ça aussi. Après, je pense qu'il y a eu un mini désavantage aux fonctions de... Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gars qui ont candidaté que de femmes qui ont candidaté. Mais la télé étant la télé, il faut qu'il y ait tant de femmes pour tant de gars, tant de ci pour tant de ça. Fait que j'ai l'impression que même si les femmes l'ont vraiment, vraiment, vraiment d'aide, ben c'est que c'était peut-être moins un descriptif global de tous les participants ever. Okay. Il y a du monde qui rappait depuis un an, tu sais. Puis pour quelqu'un qui a rappé depuis un an, par exemple, Amigos, là, incroyable, beau charisme, belle histoire, bon vibe. Mais tu sais, ça reste que il y a du monde comme Chaque Alcoolique qui m'ont appris à freestyle, qui ont été refusés parce qu'il y avait des barèmes à respecter.
Je comprends, ouais.
Fait comme,
c'est souvent la réalité.
Ça peut jouer sur le niveau,
aussi.
Mais en même temps, tu sais. Puis tu sais, je sais que oui, j'avais bien d'aide mon audition et tout. Mais je sais qu'il y a un facteur aussi avec l'histoire que j'ai, avec mon opération à cœur ouvert, je venais de perdre ma mère, de ta-ta-ta-ta-ta-ta. Veux, veux pas, ça a dû aider aussi pour faire genre, oh, lui, une histoire en plus.
La télé aime ça, justement, comme tu dis, quand il y a un background, il y a une histoire qu'ils peuvent mettre de l'avant, souvent avec les émissions là, comment OD et ces affaires-là, ils aiment ça quand les personnes ont une histoire
background.
Un peu à mettre de l'avant parce que la télé, ils aiment ça pouvoir parler de d'autres choses que juste ce qui se passe devant la caméra. Puis sinon, j'étais curieux de savoir pendant ta saison à toi, c'était qui les juges?
Les juges, c'était Soulja, Saramé et Corias.
OK.
Soulja, Saramé et Corias.
Nice.
J'ai trouvé ça vraiment cool que du monde qui aille des vitrines comme ça accepte de être juge pour une émission de talent et de relève. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter religieusement Soulja, qui vont écouter l'émission parce que Soulja. Puis ça nous donne une visibilité. Tandis que si mettons, comme on aurait eu des juges qui étaient peut-être qui ont moins de vitrines, mm-hmm. mais ça aurait moins peut-être attiré le monde à checker l'émission. Tu sais, là, tu checkais la fin des faibles affiches, puis là, tu avais Soulja, Saramé, Corias avec Pierre-Yves-Laure sur l'affiche. Ça donne le goût, tu sais, de cliquer
jeu,
plus que si il y a plein de talents, mais que tu connais pas nécessairement. Puis le monde aime cliquer sur ce qu'ils connaissent déjà. Le monde aime acheter ce qu'ils connaissent déjà. Ce qui fait de McDo, McDo, puis ce qui fait de Footlocker.
C'est du show business, hein, à la fin.
Exactement, mais j'ai trouvé ça vraiment chill que du monde comme ça prenne de leur temps puis pour conseiller du monde. Puis même s'il y a un aspect télé, puis même s'il y a des trucs que ça reste du show business, mm-hmm. juste qu'ils aient pris de leur temps pour être là, ça nous a quand même donné une belle vitrine.
Ben
vraiment,
ouais. 100%, c'est vrai.
Shout-out.
Yes, sir, man. Shout-out à tout ce beau monde-là sur la fin des faibles. Ça a bien performé. Je pense que ça a fait quand même quelques saisons. Est-ce que ça a
continué? Ça a fait deux saisons. Je ne sais pas si ça va en faire une troisième.
OK.
J'ai eu la chance de placer des beats sur la deuxième saison.
Nice.
Fait que j'avais des... Je performais sur la première, puis je plaçais des beats sur la deuxième. Fait que je trouvais ça quand même cool. Ça montrait vraiment, justement, le mind, genre, comme...
Ben,
complètement.
Puis comme on disait tantôt, de par rapport au DJing, de DJ pour un autre artiste, puis t'es capable de placer une chanson, ben là, de rentrer sur l'émission, t'as été capable de faire un placement de beat. Dans vie, c'est ça, hein? Si t'essayes pas, t'as pas. Puis quand t'essayes, ben ça t'ouvre d'autres portes qui t'amènent ailleurs, qui te font rencontrer des gens ou des opportunités. C'est juste ça, de pas lâcher, puis de mettre de l'effort, puis de pousser jusqu'à temps que tu te mettes à ta propre valeur parce que c'est toi qui choisis ta propre valeur. Faut jamais que tu laisses les autres mettre un prix à ta personne, à toi. Il y a juste toi qui peux l'établir, ça. Puis je pense que, comme on se disait hors caméra, tu es en train de travailler sur un prochain projet qui serait, si je me trompe pas, ton quatrième ou cinquième projet de fait, que ce soit EP, LP, album, tout confondu.
Cinquième, ouais. Okay, ça serait
ça,
le cinquième.
Cinquième,
je suis en train de travailler sur plusieurs projets. T'sais, en ce moment, je dois avoir à peu près comme 50 démos dans mon ordi sur une playlist
shit,
iTunes.
Hein?
Parce que j'ai plusieurs trucs. Je suis en train de faire un album, ben un EP collaboratif avec Since 99, justement,
nice.
Parce qu'on a tellement évolué ensemble, puis on est comme, yo, même si c'est pas stratégique de faire un album anglais-français, on le fait.
Let's
on
go,
fout,
man.
On va bien vibe là-dessus. Je suis en train d'écrire un livre avec ma grand-mère aussi. Ma grand-mère qui m'a appris beaucoup de philosophie, puis elle a tout le temps été là pour moi, puis je me demandais comment elle faisait pour être tout le temps sage dans des situations. Quand j'ai perdu ma mère, elle venait de perdre sa fille, puis moi, j'étais une tempête, j'étais inconsolable, j'étais genre... c'était la fin du monde, genre, puis tout. Puis elle était là pour moi, puis était comme, faut prendre ça un jour à la fois. Puis elle a tout le temps été comme super calme. J'ai beaucoup, beaucoup grandi de sa mentalité. Puis c'est quelqu'un que j'ai beaucoup modélisé, que j'étais comme, j'aspire à avoir cette sagesse-là. Fait que j'ai posé beaucoup de questions pour essayer de creuser un peu dans son passé, apprendre à la connaître plus, puis amener à comment elle a pu devenir avec cette sagesse-là. Puis on est en train d'écrire un livre de développement personnel. En fait, c'est une incitation à l'introspection. Fait qu'on donne des outils, on parle un peu de nos expériences. Sinon, on explique certains termes, certains sujets. Mais c'est vraiment comme... Il y a du développement personnel, il y a beaucoup d'informations, mais surtout beaucoup de sources et d'outils, de comme si cette philosophie-là te va, tu sais, j'en parle brièvement, si ça te va, il y a tel ouvrage pour... Fait que c'est surtout pour aider les gens à pouvoir se confier, parler, puis...
Nice. Puis sur ce cinquième projet-là, on peut s'attendre à quoi? C'est quoi l'énergie? Tu peux-tu nous en parler un petit peu ou c'est
ben
vraiment
oui,
dans
ben
la
oui,
boîte? Y a-tu des featuring? C'est quoi le vibe, la direction?
C'est tellement difficile à répondre parce que, comme je disais, moi, je suis une partie du branding. Fait que, tu sais, si c'était juste de moi, je te dirais, il va y avoir des bangers, puis des grosses passes de flow, puis du gros rap, puis de la poésie bord en bord, puis c'est sûr qu'il va en avoir. Après, tu sais, je vais vraiment sélectionner toutes les chansons avec mon équipe pour voir qu'est-ce que. C'est quoi le message? J'ai déjà une idée de ce que je veux véhiculer comme message. Je sais déjà un peu c'est quoi le concept. J'ai pas trouvé les bons mots pour, mettons, le titre encore. Je sais c'est quoi l'antithèse que je recherche, mais je cherche vraiment une bonne antithèse qui va pouvoir exprimer ce que je veux à travers ce projet-là. Fait qu'on peut s'attendre à clairement des featuring. Mon dernier projet, c'était un projet solo. C'était 5 tracks, c'était un petit EP, il n'y avait pas de featuring. Là, il va y avoir des featuring. Of course, je vais mettre du shine à des gens de mon équipe, comme Goldares, ma femme qui va être sur le projet, puis Since 99. Autant je vais aller chercher des feats que je peux pas dire encore, mais qui vont être un peu plus inattendus aussi.
Nice, man. Yo, merci pour cette belle conversation-là,
merci à vous.
Man. Esti, c'est une belle conversation. Je suis content d'en avoir appris plus sur toi, puis un peu tout d'où ça vient, ça, ton nom, d'où tu viens, toi, avec le studio qui tourne aux alentours de ta carrière. Puis on le voit, le branding, les mélodies, moi, c'est ce qui me marque beaucoup. Je trouve que tu l'as. Les textes, la plume, comme on l'a dit, à 100%. Puis il en faut, hein, comme on l'a dit, il y a plusieurs styles de rap aujourd'hui, mais il ne faut pas perdre la plume. Puis je trouve qu'il y en a beaucoup qui s'écartent de ça, puis c'est correct. Des fois, c'est plus le vibe. Tu écoutes la musique des fois juste pour viber. Mais moi, je viens d'une époque où mon rappeur préféré, c'était Tupac. fait que, tu sais, la poésie était très importante. Fait que je trouve ça le fun qu'il y a encore du monde qui mette l'emphase là-dessus, comme toi, comme Raccoon, comme on a parlé. Yes, man, merci pour ça. Le Cats, le Mind, y a-tu quelque chose que tu voulais rajouter avant la fin de l'épisode?
Ben, un gros shout-out à vous. Énorme podcast. C'est super intéressant d'avoir des gens qui prennent de leur temps pour élever la culture. Fait que gros shout-out à vous. Checkez les autres épisodes.
Yes, oubliez pas de vous abonner, commenter, partager, tout ça. Il y en a plein d'autres à venir. Le Cats, le Mind, and we out.